RMC, 13h-15h, Stephen Brunch,
Benoît Boutron, Stephen Brun.
Il est 13h03, bonjour à tous, vous êtes bien sur RMC, c'est votre émission du dimanche, le Stephen Brunch, votre libre antenne, on vous attend au 32-16 pour discuter de l'actu du week-end. Et de l'actu, il y en a eu, on va démarrer avec le Real Madrid. Le Real Madrid a-t-il perdu plus qu'une finale? Erwan Abotret est avec moi ce soir, ça va? Ce soir, ce midi, ça va?
Écoute, on est là tout le temps, ça va très très bien. Je suis très content de retrouver mon Benoît, la dernière fois il n'était pas là.
Ouais, oui.
Mais en plus, il s'est absenté pour un temps au marathon. Je suis très déçu en fait.
Ouais, je comprends.
Benoît, comment ça va?
Bah ça va. Doucement.
Hein. Non, ça va, bah oui, doucement. Quand on voit ton temps marathon, pas facile à dire.
Les gens s'en foutent. Donc moi, je suis content que tu m'en parles, mais les gens s'en foutent. Ravi de vous retrouver.
Ça va, t'es en forme?
Bah ouais. Et vous alors?
Et le Real Madrid, ils sont en forme?
Le Real Madrid, pas sûr, mais on va en parler.
Quel beau club.
Dans quelques secondes, avec Edgar Groslo. Il est en direct de la gare à Séville. Hein,
parce pourquoi que, ah oui, il faut rentrer à Madrid.
Pour rentrer à Madrid, c'est là-bas que s'est passée cette finale de Coupe du Roi complètement folle. On en parle dans un instant. Erwan, on va se régaler aujourd'hui.
Bah parce qu'à
13h30, on va parler du PSG à deux jours d'Arsenal.
Ah oui,
vous êtes
ça qui te régale,
Paris.
C'est ça qui te régale.
Arthur Perrault sera avec nous.
C'est cool.
C'est terminé l'invincibilité en Ligue 1 pour le PSG. Maintenant, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Est-ce que ça vous inquiète, cette défaite 32-16, pour participer avec nous?
À 14h, on va se régaler.
14h, Erwan. L'OM supportera-t-il la pression? C'est terminé pour le Ritiro. Et oui, la première semaine du stade.
Le Ritiro.
Et voilà,
c'est qu'Erwan est partagé, parce que c'est un Brestois, lui.
Oh
c'est pas
c'est la
bête de Brest.
C'est la vôtre dans la famille un petit peu ce match-là.
Quand même, il n'y a pas photo.
Du coup, il y a zéro photo, elle est l'OM, frère.
Ah voilà, ok. Et puis 14h30, l'événement de la journée, Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, la dernière de la saison, enfin la dernière de ce printemps. Est-ce que Pogacar finira en apothéose? Là aussi, on vous attend en 32-16, on sera avec Jérôme Pinault et avec Christophe Cessieux. Et puis toujours le cadeau, Stephen, tous les dimanches.
Ah oui, chez notre partenaire Foot Dimanche, un bon d'achat de 100€ pour acheter des pulls, des t-shirts vintage. Ça sera au meilleur auditeur, celui qui viendra au 32-16, parler avec nous, être bon, bien argumenté, nous convaincre. Il repartira avec un petit bon d'achat chez notre partenaire Foot Dimanche, Benoît.
Tu peux faire gagner un supporter marseillais alors?
Bon, ça dépend, faut qu'il soit bon, moi, le supporter marseillais. Ouais.
Allez, soyez bon et vous gagnerez ce magnifique cadeau.
Jouez dans Stephen Brunch sur RMC avec Foot Dimanche, la marque préférée des fans de foot. Retrouvez les derniers t-shirts et sweats vintage de vos équipes préférées sur footdimanche.com.
13h06 sur RMC, un sacré mal de crâne pour les supporters du Real ce matin. Hier, les Madrilènes ont perdu la finale de la Coupe du Roi, 3-2 après prolongation. C'est Jules Koundé qui a inscrit le but de la victoire pour le Barça à la 116e minute. Match marqué par une tension extrême autour du corps arbitral. Jeudi, la série d'attaques visant cet arbitre central diffusée sur Real Madrid TV. Vendredi, le principal concerné, monsieur Bencoechea, qui fond en larmes en conférence de presse. Ensuite, le boycott du Real sur les obligations médiatiques. Et puis hier, le match. Trois joueurs du Real expulsé en fin de match alors qu'ils étaient sortis, Bellingham, Vasquez et Rudiger, qui lui carrément a été coupable d'un jet d'objet envers l'arbitre. Il risque jusqu'à 12 matchs de suspension. Il s'est excusé il y a quelques minutes sur ses réseaux sociaux. Edgar Groslo est donc en direct avec nous. Salut Edgar.
Edgar, jackpot. Ça va Edgar?
Salut Benoît, salut Stephen, salut tout le monde.
Edgar sur le quai de la gare.
Direct de la gare, et je peux vous dire que c'est le train pour Madrid et il n'y a que des maillots du Barça, bizarrement. Je crois que les fans de Madrid les ont laissés au fond du sac.
Ah, peut-être que c'est les fans de Madrid qui ont acheté un maillot du Barça, peut-être.
Oh non, c'est pas le genre.
Peut-être. Se reconvertit.
Edgar, parle-nous de cette presse espagnole qui est en fusion ce matin après le week-end chaotique pour le Real.
Oui, un titre qui, je trouve, résume bien la situation, c'est celui de AS, qui est pourtant journal madrilène pro-club pro-Real Madrid, et qui écrit « Le Barça a gagné, le foot ». J'ai l'impression que trop souvent le Real ne s'est pas concentré sur le foot ce week-end, déjà en boycottant, tu l'as dit, toutes les activités d'avant-match pour essayer de provoquer un changement d'arbitre. La presse catalane a appelé ça une monstruosité médiatique, pardon. Pour eux, le Real détruit les valeurs du football, et toute cette nervosité s'est ressentie aussi chez les joueurs avec ces trois expulsions en fin de match, Lucas Vázquez, Bellingham, Rudiger, qui risque jusqu'à 12 matchs de suspension. Il s'est excusé publiquement ce matin, mais même la presse madrilène est très dure avec lui. Ils disent qu'il a un comportement indigne du club, et ce mot indigne, d'ailleurs, c'est un petit peu celui qui revient un petit peu partout, que ce soit en Espagne, que ce soit dans la presse internationale. On se dit que le le comportement du club n'est peut-être pas à la hauteur de l'histoire de ce club-là et que ce week-end peut entacher quand même, selon pas mal de journaux ici en Espagne, peut entacher l'image du Real Madrid.
Merci Edgar. Bon retour. Bon, reste avec nous jusqu'à ce que la ligne coupe. Hein, mais on ne sait jamais, on pourra s'appuyer sur toi puisque tu étais au stade hier pour vivre cette finale de Coupe du Roi.
Je vais mettre entre deux wagons, t'inquiète
pas. Pourquoi pas. Le Real a-t-il perdu plus qu'une finale hier, Stephen ?
Écoute, minable cette semaine du Real Madrid.
Tu sais que j'avais peur, hein. Parce que toi qui aimes le chambrage et tout, je me suis dit sur quelle position il va aller, mais là ça va
pas. C'est pas du chambrage. Là c'est pas du chambrage. Quand tu diffuses une vidéo pour décrier l'arbitre qui va officier samedi soir sur ta chaîne, sur la chaîne officielle, c'est pas une vulgaire chaîne YouTube d'un fan du Real Madrid. C'est la chaîne du Real Madrid TV qui met une pression sur l'arbitre, qui craque parce que forcément, quand t'es le Real Madrid et que tu mets une pression sur l'arbitre, ça a des répercussions sur la vie de cet arbitre-là. Et après, enfin, tu menaces de pas jouer le match parce que tu veux un changement d'arbitre. Tu nous sors des stats minables en disant que le Real Madrid n'a que 63% de victoire quand c'est cet arbitre dans le VAR ou sur le terrain. Mais attends, on est où? Toi, le Real Madrid, qui a tout gagné, qui a un club exceptionnel, qui a fait des choses exceptionnelles sur le terrain, t'es réduit à ça pour espérer battre Barcelone, pour sauver ta saison. Parce que c'était le seul moyen de sauver la saison du Real Madrid, éliminé en Ligue des Champions, à 4 points de Barcelone, alors qu'il reste 5 matchs en Liga. Ils sont partis pour faire une saison blanche. Mais quelle honte et l'attitude des joueurs, parce que hier sur le match, qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à l'arbitre, alors qu'il y a quand même eu pas mal d'erreurs entre guillemets en faveur du Real Madrid. Tchouaméni qui doit finir au vestiaire, Tahiti douche avant tout le monde parce qu'il découpe Dani Olmo, finalement il est encore là. La main de Valverde au début, bon, qui se siffle pas, mais malgré tout, il y a une main dans la surface de réparation. Il y a un pénalty qui est oublié à la 96e. Rudiger, s'il n'y a pas quatre mecs du Real Madrid qui vient stopper Rudiger, ça veut dire qu'il vient avec des glaçons, il va éclater les glaçons sur la tête de l'arbitre. Ouais,
t'as raison.
Attends, c'est quoi ça
fait de Bayonne, mais c'est plutôt bonne ambiance.
On est où là, Erwan ? Mais on est où ? C'est scandaleux.
C'est un terrible aveu de faiblesse de la part du plus grand club du monde. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus, qui aime bien donner des grandes leçons de morale. Et là, je trouve que cette semaine-là, c'est indigne, tu le dis Steph, indigne de ce club-là. Oui, la saison, elle est dure. Oui, la saison, elle risque d'être blanche. Mais on ne peut pas faire ça. C'est sur le terrain que les choses doivent se passer. Le Real Madrid reste et doit rester un club sportif. Donc c'est sur le terrain. Hier, ils avaient l'occasion, sur un match, de sauver la saison. Parce qu'en plus, il y avait sur les dernières confrontations face au Barça, ils avaient fait le plein. Il y avait de l'orgueil à mettre sur le terrain. Il y avait montré un petit peu de la fierté de porter ce maillot du Real Madrid.
Qui s'est un peu passé en seconde période, d'ailleurs.
Il y a eu un petit peu, mais en fait, tout est oublié parce qu'on a assisté à un grand match de football où le Real menait et revenu au score. Il y a même mené dans cette finale-là et on a vu un grand match de foot. Mais tout ça, s'oublier par un comportement pendant le match, après le match et même avant, donc sur cette finale-là, mais c'est minable. C'est un aveu de faiblesse. J'ai jamais vu le Real, qui a toujours été un mauvais perdant, un grand gagnant, mais un très mauvais perdant. Là, il touche le fond et puis c'est plus que atteindre l'image du club sur cette saison, c'est l'image du club en général, sur ce qu'il refait dans le monde et de ses fans. C'est minable. J'espère que les gens vont sévir. Qui, comment, pourquoi, je sais pas. Mais là, faut sévir. Et faut sévir sérieusement.
À un moment donné, tu peux pas avoir instauré la peur sur le championnat espagnol parce que t'es le grand Real Madrid, être capable de. Mec, c'est toi qui décides de tout en fait. C'est toi le grand patron du football. Notre ami Florentino Pérez qui fait des leçons à tout le monde. Non, mais à un moment donné, c'est pas ça. Tu as perdu. T'as joué un très beau match de football. Mec, rentre au vestiaire comme l'a fait Carlo Ancelotti quand il passe à travers les joueurs du Barça. Carlo Ancelotti en conférence de presse, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. On l'a perdu. C'était un Mais t'as pas honte, hein, le Real Madrid, toi qui as tant gagné, toi qui as tant bénéficié aussi d'erreurs d'arbitrage pour te procurer des titres ou pour te faire gagner des matchs, tu viens chialer comme ça. Mais ça, après le Real Madrid, il y a une émission de 5 heures à faire sur le Real Madrid, hein, et tout sport confondu, hein, parce qu'au basket on l'a vécu, ils sont champions d'Europe en ayant renversé contre le Partizan Belgrade, en déclenchant une bagarre générale pour suspendre des mecs, notre ami Sergio Llull, ils sont coutumiers du fait dans le club omnisport, hein, le Real Madrid, hein, c'est vilain ce qu'ils ont fait, c'est vilain.
Bah, demandons à Edgar, est-ce qu'il y aura des conséquences sportives après ce week-end chaotique, déjà les suspensions mais aussi en interne, qu'est-ce qui peut se passer à Madrid dans les prochaines heures?
Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà par rapport à Carlo Ancelotti, parce qu'on le dit, son poste est en danger et ça risque en tout cas d'accélérer les choses. Certains médias disent même qu'il pourrait ne plus être là la semaine prochaine. Donc ça va être le feuilleton des prochains jours. Et puis ensuite pour les joueurs expulsés, tu l'as dit, Lucas Vázquez, Bellingham, eux ils risquent a priori 2 matchs de suspension. Et donc ça ne concernerait que la Coupe du Roi, donc ils seraient suspendus la saison prochaine. Et Lucas Vázquez n'est même pas sûr d'être là la saison prochaine.
Ça concerne pas la Ligue, mais... alors, info importante.
Non. Alors en fait, il y a une règle en Espagne qui est que à moins de 4 matchs de suspension, ça concerne que la compétition où tu as pris l'exclusion. Donc par exemple là, ça concernerait que la Coupe du Roi. Par contre, pour Rudiger, où là, il risque plutôt en 4 et 12 matchs. Dans ce cas-là, ça le suspendrait aussi pour la Liga. Et donc là, ce serait un gros problème pour le Real Madrid. Il pourrait ne plus rejouer cette saison. Ça va être en tout cas une affaire à suivre. Parce que lui, sa suspension concernerait toutes les compétitions nationales en Espagne. Donc ça pourrait coûter cher au Real Madrid. Même si Antonio Rudiger, au-delà de ça, il joue blessé depuis 6 mois. On l'a vu encore avec ses poches de glace sur la jambe. Il y a aussi...
Ah, c'est pour ça qu'il y avait des glaçons à proximité. Quoi, avec les...
C'est ça. Non mais il y a aussi une question. Au Real, il y a beaucoup de blessés cette saison, et c'est aussi un problème qui a été le cas cette saison.
Hier, ils ont perdu Ferland Mendy au bout de 10 minutes. Camavinga.
Ferland Mendy, il n'était pas prêt à jouer.
Il revenait de blessure. C'était un pari tenté. Il est retouché à la cuisse immédiatement. Mais c'est la question que je voulais vous poser. C'est délicat d'y répondre, mais est-ce que vous pensez que le comportement des joueurs, il est induit par tout ce qui s'est passé dans la semaine? Est-ce que c'est la responsabilité des dirigeants? Parce que je veux dire, ce sont les dirigeants qui mettent cette tension autour du match. Et est-ce qu'au final, on voit Koundé marquer à la 116e, ça fait dégoupiller les joueurs? Je dis pas que c'est excusable, mais est-ce que il y a une responsabilité chez les dirigeants?
Sur le match, sur l'entièreté du match, tu sens qu'il y a une pression qui est énorme, parce que c'est une finale, parce que c'est un classico. L'arbitre, il est sous pression sur chaque décision qu'il prend. Il prend une pression tout terrain, même des joueurs du Barça aussi, hein. Ouais, les joueurs du Real, il prend une pression. Tu sens qu'il y a une atmosphère quand même qui est électrique. Après, tu perds, bien sûr, tu perds sur un ballon perdu, sur un but de Jules Koundé à la 116e.
Bravo le ballon dans l'axe.
Oui, bravo le ballon dans l'axe. Je peux comprendre que ça soit agaçant. Mais de la vriller comme ça et de tout remettre sur le dos de l'arbitre. Alors que les dirigeants aient mis cette atmosphère pesante toute la semaine et que ça a un impact sur les joueurs. Oui, enfin, à un moment donné, quand t'es joueur de football professionnel, t'es capable de faire un peu de discernement, Erwan, non?
Tu sais mieux que personne autour de cette table que tout dans les clubs, quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal, ça part des bureaux. Ça part de la sérénité, de la vision que des gens dans le bureau, le GM, le président. Et à partir du moment où tu laisses faire ça, où tu mets une pression monumentale sur un arbitre, que tu fais passer des vidéos comme ça, les joueurs, ils sont pas imperméables à ça. Ça rentre dans leur tête, qui en plus, eux, sont frustrés d'être sortis en Ligue des Champions, où ils sont fait rouler dessus par Arsenal. Ils voient qu'en championnat, ça risque d'être compliqué. Ils prennent cette pression-là. Et donc, du coup, tu les mets pas dans les meilleures dispositions. Et pour moi, quand tu pètes un câble comme ça, parce que hier, c'est même pas un à chaud, ou sur un tacle, un échauffeur avec un joueur. C'est des mecs qui sont sur le banc, ils sont déjà sortis, ils sont redescendus, et ils disjonctent comme ça à jeter un truc sur un arbitre. Est-ce qu'on se rend compte de la folie qui s'est passée?
Parce que t'as plus d'autorité en interne.
Voilà, donc au bout d'un moment, c'est mais ils ont fait ça eux, ils font des vidéos à charge sur un arbitre. Mais en fait, c'est porte ouverte. Vas-y, on peut y aller. On est dans la lignée de ce que nos dirigeants, de ce que notre service de com fait. Ben allons-y. Et c'est ce qui s'est passé hier.
C'est ça qui est important. Est-ce que Rudiger, il se permet de faire ça s'il y a un autre discours en interne? La question de fond, elle est là, tu vois.
Ouais, je suis pas sûr. Après, Rudiger, il est fragile, hein, émotionnellement. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit.
Rudiger, il a une sacrée carrière quand même, tu vois. Il a connu des émotions, tu vois. Donc,
je suis d'accord avec toi sur la carrière de Rudiger, mais c'est pas la première fois qu'il vrille.
Non, Rudiger,
souvent il vrille sur le terrain en découpant les mecs. Là, ouais. Il a voulu découper un arbitre. Non, mais mais t'as raison que l'atmosphère pesante d'un club, elle a un impact sur les joueurs. Mais en fait, moi, c'est le truc. Le scénario exacerbe les émotions. Mais sur hier, quel est le scandale en fait pour péter un câble? Je comprends pas en fait.
Mais c'est que tu perds en fait.
D'accord, mais t'as perdu. Oui, mais c'est une raison pour vouloir aider quelqu'un d'arbitre.
Non, mais en fait, la lecture, c'est pas juste gagner ou perdre. La lecture, c'est l'atmosphère. Mmh. Ça fait une semaine, voire plus depuis l'élimination de la Ligue des Champions, que à l'entraînement, ça doit être très
pesant. Donc ça veut dire que t'es pas capable de voir que sur le terrain, finalement, il y a pas un énorme scandale.
Ben non, parce que t'es dans une
bulle. Parce que t'es dans une matrice
ce mot-là, la vidéo, tu l'as vu. Il y a des gens que t'as dû recevoir plein d'appels. Alors, il y a des joueurs qui ont dit, toi, faut se mettre dans une bulle, faut se couper du monde extérieur. Mais là, c'est pas le monde extérieur. Ouais. C'est tes propres dirigeants qui font, en fait, pour moi, ce qu'ils ont fait, le Real, c'est un appel à, allez-y. Si on perd, on arrache tout. Et on l'a déjà vu ça dans les petits niveaux. En rugby, on le voit des fois dans les petits niveaux. Si on perd, on perd pas la bagarre.
Mais dans tous les sports. Dans tous les sports. Bien sûr.
Ils sont pas allés jusqu'à là, mais c'était un petit peu ça. Les gars, si on perd, on arrache tout, hein. Tiens. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Donnez la parole aux supporters madrilènes, à commencer par Théo, Stephen.
Salut Théo.
Salut tout le monde.
Bienvenue dans le Stephen Brunch. T'es en forme Théo?
Ouais, ça va et vous?
Ouais, tranquille. Tu nous appelles d'où?
À côté de Bordeaux.
À côté de Bordeaux, très bien. Supporter du Real Madrid?
Ouais.
T'es couché tard, hein?
Alors, je me suis couché tard. Là, j'ai un peu honte. J'avoue, j'ai un peu honte. Mais déjà, pas pour le jeu en lui-même, mais pour le comportement, j'en ai marre. Enfin, franchement, là, déjà, toute la com sur l'arbitrage, ça m'a dégoûté. Franchement, je me dis, quand t'es le Real Madrid et que tu te proclames, et même le constat il est là, que t'es le plus grand club du monde, tu peux pas en arriver là, c'est pas possible quoi. Faut à un moment donné, t'as joué tous les classicos de l'année, t'as pris une fessée et sur deux matchs t'en as pris neuf. Bon, va falloir serrer les dents et dire que il y a du monde qui te regarde. Donc jouer au foot et essayer de gagner contre le Barça quoi. Là c'est horrible. Enfin tout est horrible quoi. La com, le comportement des joueurs. J'arrive plus à cerner Pérez, qui pourtant c'est un peu grâce à lui qu'on en est là. Ancelotti ramasse, alors que Ancelotti, moi je le défendrais corps et âme parce que c'est aussi grâce à lui que le club en est là. Là, il y a une ambiance générale qui me dégoûte un peu du club. Franchement, très honnêtement.
À qui tu en veux le plus, Théo ? Aux joueurs, aux dirigeants ?
Ben en fait, c'est un ensemble un peu là, parce que les joueurs, à un moment donné, t'es un humain, t'as une conscience. Tu peux pas te laisser l'effet de foule. Je veux bien, mais faut arrêter quoi. Ça reste du foot aussi, hein. Et puis t'as des gamins qui te regardent. Enfin, je sais pas si, dire c'est pas comme si il y avait des problèmes sur tous les stades. À plus petit niveau. Alors c'est quoi ça, c'est l'exemple qu'on va donner à des gamins. Ouais,
et puis
là tu bousilles le travail d'éducateur en fait.
Et puis Théo, à un moment donné, tu dois être capable d'accepter une mauvaise saison entre guillemets. T'as tout gagné. Chaque année, t'as gagné un trophée. Ça peut arriver, aussi grand que tu sois le Real Madrid, de passer à travers sur une saison, de sortir en Ligue des Champions, d'être battu par meilleur sur la saison, puisque Barcelone fait une meilleure saison que toi. Ça arrive, non? Tu retravailles, tu reprends des joueurs à des postes importants parce qu'il y a quand même beaucoup de carences dans cette équipe du Real Madrid. Et puis ça vient s'ajouter à l'époque à l'épisode Vinicius Ballon d'Or. Non, Vinicius c'est pas Ballon d'Or. Eh ben, on va pas à la cérémonie du trophée. On boycotte la cérémonie du trophée. Parce que nous, le Real Madrid, on donne pas le ballon d'or à Vinicius. Tu vois, ils sont en train de s'éparpiller alors qu'ils avaient une image. Bon, il y a toujours une image un peu bizarre avec l'arbitrage, mais ça a toujours été beau, le Real Madrid, le maillot blanc, ça a toujours été un club qui fait rêver une institution. Et là, ils sont en train de tout gâcher. Non, parce que ça enlèvera pas tout ce qu'ils ont fait depuis pas mal d'années.
Non, mais c'est vilain.
C'est vilain. C'est pas digne d'un club comme ça.
Mais toi qui as été sportif de haut niveau, Stephen, excuse-moi Théo, je te redonne la parole juste après.
Ouais, pardon.
Tu penses que ça symbolise une impuissance sportive? C'est-à-dire qu'ils sentent qu'en fait,
il leur reste plus que ça.
Et ils ont essayé d'aller chercher des leviers ailleurs.
Il leur reste plus que ça. C'était quoi? C'était le dernier objectif de la saison.
Ouais.
Il reste plus rien d'autre.
La Liga, c'est pas impossible. C'est pas, oui, ça va être difficile.
Il reste un classico le 11 mai.
Voilà.
Il reste un classico pour essayer de sauver l'honneur. Sinon, ça fait 4-0 sweep. Ouais. On rentre à la maison. Ouais. Moi, je pense que ça vient de comprendre que malgré l'armada que tu as, que tu fais venir Kylian Mbappé dans une équipe qui a déjà tout gagné la saison dernière. Et tu comprends pas pourquoi tu gagnes pas en fait. Tu comprends pas pourquoi ton ennemi Barcelone est meilleur que toi. Tu comprends pas pourquoi Rafinha et Yamal sont au-dessus de Mbappé, Vinicius et Rodrigo qui sont censés être les trois meilleurs joueurs du monde. Et t'es un peu désarçonné et tu pars en vrille en fait. Mmh. Et puis tu perds toute lucidité.
Edgar, quel est ton avis à toi qui est en interne? Parce que t'as vécu toute cette saison, ça avait plutôt bien démarré. Ils avaient gagné la Super Coupe d'Europe, etc. Après, on s'est posé des questions pour Mbappé. Il est revenu en forme. Là, il y a les tartes qui s'enchaînent. Comment tu vis ça de l'intérieur, toi, Edgar?
Je pense qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose à recommencer côté Real, et c'est pour ça aussi qu'on parle autant d'Ancelotti dans la presse espagnole, parce que très clairement, et on l'a déjà répété beaucoup de fois, et ça se confirme à chaque fois, il est dépassé dans les grands matchs, et ce Real-là est dépassé dans la plupart des grands matchs, et donc il y a une nouvelle ère à commencer, peut-être sûrement autour de Kylian Mbappé. Il y a d'autres joueurs qui interrogent beaucoup, comme Rodrigo, qui est absolument fantomatique en 2025, un seul but sur les 20 derniers matchs. Il y a beaucoup de choses à changer, et je pense qu'il faut pas confondre aussi la direction avec les supporters. La direction, je pense, a influencé les supporters aussi à beaucoup critiquer l'arbitrage, parce que je peux vous dire qu'à la cinquième minute hier, il y a eu un hors-jeu sifflé. Il y avait déjà des chants dans les tribunes de corruption à la fédération. Mais au-delà de ça, sur le sportif pur, les supporters, comme vous l'avez dit, voilà, le Real Madrid a droit de perdre de temps en temps, et la majorité des supporters avec lesquels on parle se disent bon, bah c'est normal, on va pas gagner tous les ans. En tout cas, c'est ce qui se disait pour la Ligue des Champions, et ils s'attendent aussi à ce qu'il y ait un nouveau cycle qui commence. Et maintenant, la question, c'est qui va diriger ce nouveau cycle? Et ce sera Xabi Alonso? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? A priori, tout pousse à croire que ça ça sera Xabi Alonso, mais c'est normal avec cette équipe qui semble un petit peu à bout de souffle de pas avoir les mêmes résultats.
En tout cas, Edgar, tu fais une belle saison.
Lui, hein, commence vraiment un nouveau cycle.
Pour ta première année, ouais, tu fais une belle saison. Bravo.
Au moins, il y a de la cul.
Tu sais, je me suis excusé. Je parlais avec un journaliste madrilène et hier, excuse-moi, j'ai ramené la poisse à Madrid. Il m'a dit, je pense que c'est un peu plus la faute de Florentino que de toi.
Bon, ça va.
Et Théo, vous voulez dire un dernier mot, Théo?
Ouais, Théo, vas-y.
Rebondir sur le fait que ouais, je pense que c'est là c'est Pérez complètement qui part en vrille et j'ai l'impression que ça fait un peu caprice de riche quoi. C'est genre on a de l'argent, on a Kylian Mbappé et pourquoi c'est pas normal que ça fonctionne comme... Mais mec, c'est pas comme ça que ça marche le foot. C'est pas un joueur qui va te ramener tout quoi. Il y a un collectif, le collectif on voit bien qu'il y a un problème. Moi, je suis pas dans le vestiaire, mais on voit bien qu'il y a un problème. Il y a quelque chose. Je n'attaque pas Mbappé parce que je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. J'y suis pas. Mais va falloir arrêter les caprices de et tout reconstruire comme il l'a dit. Faut repartir sur des bases saines. Alors, ce sera pas avec Ancelotti. J'y crois pas. C'est même sûr d'ailleurs. Mais faut repartir sur des bases saines, faire un tri et penser aux joueurs que tu formes aussi parce que Lamine Yamal. Pourquoi il est aussi monstrueux?
Yamal, Pedri, Ferran, hier.
Mais parce que c'est des mecs du club. Il y a aussi ça. C'est des enfants du club. Exactement. Ils ont été formés. Il faut rajouter Gavi.
Tu peux rajouter Fermín López.
C'est un petit détail qui fait beaucoup en fait parce qu'ils se battent pour le club qui leur a tout donné.
Exactement.
Et là, à l'heure actuelle, il y en a pas beaucoup dans l'effectif du Real.
Il y a Asensio.
Ouais, et il y a.
Et qui, sur l'attitude, c'est l'un des plus irréprochables d'ailleurs cette saison.
Raoul Asensio,
tu sens qu'il se bat beaucoup.
Raoul Asensio, hier, très serein quand on lui siffle le pénalty sur la faute sur Rafinha. Il reste très calme, il dit non, vous allez voir la vidéo, pour moi, il n'y a pas pénalty.
À part la coupe de cheveux, il n'y a pas de fausse note.
Non, il n'y a pas de.
On en est là.
Après,
il y a beaucoup de fausses notes sur les coupes de cheveux.
Ouais, c'est pas
tout y a mal. Il a le droit, lui. Didier Deschamps a dû voir un beau match. Il avait un très bon Kylian Mbappé sur la deuxième mi-temps. Il avait un bon Tchouaméni. Il avait un très bon Jules Koundé. C'était sympa pour le foot français.
Une mauvaise note pour Ferland
Mendy.
Bon, merci Théo d'être venu au 32-16.
Merci beaucoup Théo.
Je te rappelle quand tu veux pour participer au Stephen Brunch. Autre supporter madrilène avec nous, Simon.
Simon. Salut Simon, ça va?
Salut les gars, comment ça va?
Ça va, Simon? T'es en forme?
Ouais, ça va, nickel. Ouais, je suis en forme, un peu fatigué, mais ça va.
T'es dans quel coin de la France, Simon?
À côté de Bordeaux, à Périgueux, je suis moi.
À Périgueux, ah, Bordeaux, région. Boulazac. Tu es parti de Boulazac à Périgueux ou pas?
Non, pas du tout, non.
Ouais, t'as rien à cirer du basket, t'as bien raison.
Attends, ils sont bien placés pour monter là en plus.
Ils sont bien placés et tout, mais non, je suis pas forcément le basket, non.
Très bien.
Bon, on comprend, t'inquiète pas.
Bon, alors, ce match-là, hier, comment tu l'as vécu?
Comment je l'ai vécu? Comme un match du Real cette saison, de toute façon. Globalement, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit précédemment, même avec Théo. Mais bon, il y a quelques points qu'il faut quand même voir parce que bon, le précédent auditeur Théo qui disait qu'il défendait Corvia, Ancelotti. Bon, moi, je suis pas d'accord là-dessus dans le sens où il y a plusieurs gros problèmes au Real. Hein. Donc, on va partir forcément, comme vous dites depuis le début, des bureaux avec le comité directeur, avec Sur Enrique Pérez et tout ça. Il y a les joueurs, il y a le staff. Si on parle du staff, ce qui fait plaisir, c'est qu'hier, sur ce match-là, on voit une grosse deuxième mi-temps du Real, où on voit un bon match de foot, et il faut féliciter Barcelone, parce que Barcelone est bien plus au-dessus du Real niveau football cette année. C'est tout à fait mérité qu'ils gagnent et la Liga, parce qu'ils vont gagner la Liga, ils vont gagner la Coupe du Roi.
Et toute la Ligue des Champions.
J'espère que Paris gagnera la Ligue des Champions. Bon, on est français quand même, donc bon, je sais, on verra bien. Sur cette deuxième mi-temps, le Real pour moi était bluffant. Mais là où je jette la pierre à Ancelotti, par exemple, et c'est là où j'ai l'impression de voir l'équipe de France, c'est qu'on arrive à inverser la tendance. On gagne 2-1. Et en fait, comme on voit depuis des années, dès que le Real gagne, eh bien ils attendent, ils se mettent à 11 derrière, dans les 30 derniers mètres. On subit, et on attend de jouer en contre-attaque. Et toujours, on se met en danger. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Enfin, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui nous fait sortir notre match aussi par leur qualité. Eh bien, on perd ce match-là.
Après, sur le deuxième but, Thibaut Courtois a une très mauvaise inspiration sur la sortie. Hein.
Oui, mais en fait, tous les joueurs du Real cette année, que ce soit du gardien ou du remplaçant, jusque tous les joueurs ne sont pas là cette année. Il y a quelques joueurs où on peut leur tirer un chapeau pour leur état d'esprit, comme Valverde, comme Asensio. Ça, ce sont de vrais joueurs club. Et pour rebondir sur ce que disait Théo aussi, par rapport à Yamal, par rapport à Courbacy, à Cubarsí, par rapport à Fermín López, le Barça, c'est une institution dans le centre de formation. Nous, le Real, on n'a jamais été connu pour former des joueurs. On achète des joueurs confirmés. Asensio, c'est l'exception qui déroge la règle. Mais des Théo Hernandez, des Hakimi, des Marcos Llorente, on ne forme pas les joueurs. Nous, nos joueurs, on les forme, on les revend. Et on achète des joueurs confirmés. Donc là, de ce côté-là, c'est incomparable. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Après, pour Ancelotti, je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'il fait le sentimental à chaque fois. Pourquoi? Et c'est là où, encore une fois, je fais la comparaison avec Deschamps. C'est que Deschamps, bon, là, on suit tous l'équipe de France. On voit qu'il a eu son moment de gloire avec ses qualités et ses défauts, avec ses tactiques et peu importe. Mais toujours entêté à prendre les mêmes joueurs. La semaine dernière, Arda Güler joue dans un autre dispositif. Il joue en numéro 10, un vrai numéro 10 qui est son poste. Il fait une performance XXL. Donc certes, ça resterait taffé, mais il a été monstrueux. Pourquoi est-ce qu'hier, Ancelotti fait le sentimental à repartir avec un système de jeu qui ne nous convient pas, parce que bon, avec tous les joueurs et le vieux recrutement qu'on a fait, c'est dur de trouver un
système. Mais est-ce que tu as vu cette image, Simon, pas anecdotique, de voir Vasquez qui est capitaine et qui sort encore le premier parce que c'est lui qu'il faut sortir, et du coup qui est dégoûté de sortir d'ailleurs, parce que c'est Valverde qui passe latéral droit, pour faire rentrer d'autres joueurs. Là aussi, c'est symptomatique quand tu vois l'attitude.
C'est là où est-ce qu'il y a déjà, il y avait même aussi un gros problème déjà au niveau de base, au niveau du recrutement. Je ne comprends pas que quand on voit des joueurs comme Kroos qui sont partis, comme Carvajal qui se blesse, Militao qui se blesse les croisés, donc ça laisse aussi penser à Pintus qui était un des meilleurs préparateurs physiques du monde entier et qui maintenant, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il raccroche un peu les crampons ou alors qu'il repasse des formations, parce que le Real, depuis deux ans, si on fait le cumul depuis deux ans, c'est plus de 100 blessés, quoi. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et là, cet hiver, on n'avait plus de latéral droit, on n'avait plus de défenseur central, centraux du coup, puisqu'à là-bas était blessé aussi, il n'y avait pas que Militao. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher des gars capables, parce que quand on voit Vasquez, encore une fois, et puis il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que Vasquez, c'est un bon, c'est un guerrier, tout ça, ok, mais c'est lamentable.
Alors qu'il y avait Luis Felipe de l'Inter qui était dispo, finalement il est parti à l'OM.
Pour... et qui a une inflammation à l'œil aujourd'hui. Il ne peut pas jouer, là, il a l'œil inflammé. Donc c'est ça le problème.
Mais bon. Simon, tu as été bon, tu as été très bon. Tu repars avec le bon d'achat de 100 euros chez notre partenaire Foot Dimanche.
C'est un beau lot de consolation.
Ben merci bien, mais c'est un beau lot de consolation.
Tu pourras attacher le t-shirt de Yamal.
Ouais.
Bon, non, merci Simon. Merci,
merci beaucoup Simon. Bonne journée.
Merci les gars, bonne journée.
Et dans un instant, on revient, parce qu'on va continuer de parler de foot. Et du Paris Saint-Germain, Stephen. On remercie Edgar Groslot qui va rentrer tranquillement à Madrid.
T'étais au parc, toi?
Merci, monsieur.
J'étais au parc, bien sûr.
Content, tu t'es levé trois fois. Les trois frappes de Nice, tu t'es levé trois fois.
Non, mais écoute, c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir perdu ce match. C'est ce dont on va parler dans un instant, à deux jours d'Arsenal. Est-ce que vous êtes inquiet pour Paris? Je vois qu'Arwan Abotret est très inquiet. On vous attend.
Lui, il est inquiet. Je suis inquiet de Paris, il y a la Ligue des Champions. C'est pas pareil. C'est une autre inquiétude.
Allez, tout de suite.
RMC. Jusqu'à 15h, Stephen Brunch.
Benoît Boutron, Stephen Brun.
Il est 13h32, vous êtes sur RMC, le Stephen Brunch, chaque dimanche, 13h-15h, avec Arwan Abotret, ici présent, Benoît Boutron. Ça va les amis?
Ça va
très très bien. On a fait une belle demi-heure sur le Real Madrid. Hein.
On aurait pu faire 4 heures. Hein.
Ils ont été dignes hier, le Real. Hein. Dignes dans la défaite. Hein. Non, mais
écoute, les valeurs du sport qu'on aime.
Tu remontes dans mon estime. J'avais peur que tu me dises ouais non mais c'est chambré, c'est tout ça.
C'est pas chambré,
là ça va trop loin.
Bah, il est fou, Steph, mais il a des limites quand même. Il a des limites.
Ouais. Voilà. Alors j'ai ce côté un peu pervers qui hier me je disais au mec du Real Madrid, laissez-le Rudiger, lâchez-le, je veux voir jusqu'où ça peut aller en fait. Vous allez laissez-le voir ce qu'il est capable de faire.
Non, si tu voulais savoir qui allait gagner entre l'arbitre et Rudiger, je peux te le dire tout de suite. Hein.
Non, oui, mais c'était pas savoir qui allait gagner, surtout s'il allait aller au bout de sa dinguerie.
La question, c'est toujours, alors c'est un fameux cinéma, mais est-ce que le gars est prêt à aller au bout ou est-ce qu'il
joue sur le fait qu'il va être. Ouais. Mais enfin, qu'il n'y ait personne vienne. Bah vas-y,
ouais, c'est ça. Tu veux y aller, vas-y, montre-nous. Dans un peu moins d'une demi-heure, on va parler de l'OM. Désolé, Erwan. Est-ce que l'OM va résister à la pression face à Brest? C'est ton match en plus, Marseille-Brest.
L'OM qui est parti à Rome aussi 4 jours pour, en solidarité du pape.
Moi, je serais allé à Lourdes, hein, mais après, chacun son truc.
On en parlera avec vous, supporters marseillais au 32-16. Mais allons-y sur Paris, J-2 pour le PSG. On va y aller sur cette demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal. On a également du direct avec la dernière classique de ce printemps. C'est la doyenne d'ailleurs, Liège-Bastogne-Liège. le duel, un bel accent belge, le duel entre Pogacar et Evenepoel qu'on suit avec Maria Azé. Salut Maria.
Salut Stephen, salut tout le monde. Oui, déjà 138 km de fait, hein, sur les 252 au total, donc il en reste encore 113. On n'a pas fini encore dans cette doyenne, dans ce Liège-Bastogne-Liège. Alors tu le disais Benoît, les favoris sont là. Tadej Pogacar qui a remporté la Flèche Wallonne mercredi, Remco Evenepoel qui revient hein, lui après une grosse blessure. Donc on s'attend à un énorme duel aujourd'hui entre les deux, puisque c'est simple, sur les 4 dernières éditions ils se les sont partagés ces victoires sur Liège-Bastogne-Liège. Donc on s'attend à un énorme duel qui devrait se décanter plutôt autour des 30-40 km de l'arrivée.
Ouais, ce sera passionnant à suivre avec toi, on en parlera à 14h30. Oui. Tu seras là Maria, on sera avec Jérôme Pinault et avec Christophe Cessieux pour lancer donc la belle après-midi et cette belle classique.
Ah, il s'échauffe pour le Tour de France, hein, Pinault, Cessieux. Là,
ah, c'est ouais. Vrai, ça travaille. Maria aussi. Hein.
Maria aussi, va falloir souffler un peu comme pour Pogacar et après il faudra repartir.
Après c'est du foncier, puis après on attaque les grands tours. Donc le PSG, c'est mardi soir, demi-finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse d'Arsenal. Une soirée spéciale sur RMC, soyez bien à l'écoute. Ça commencera des Rotten sans flamme à 18h. Paris qui connaît une baisse de régime, Stephen, c'est comme ça. Ça fait 15 jours que ça dure. Baisse de régime concrétisée par cette défaite vendredi soir contre Nice au Parc des Princes, 3-1. Défaite qui brise les rêves d'invincibilité en Ligue 1. Parlons-en à Arthur Perrault qui est là en studio. Salut Arthur.
Salut messieurs.
Salut Arthur.
Bonjour à tous. Salut Stephen, ça va ?
Ouais, tranquille.
On reste confiant au PSG malgré tout. Hein.
Oui, et les joueurs parisiens qui d'ailleurs ont repris le chemin de l'entraînement hier au campus PSG de Poissy avec un groupe au grand complet. Là aussi, c'est un petit événement puisque comparé aux saisons précédentes, l'infirmerie parisienne reste vide. Pas vraiment d'inquiétude dans le staff parisien où on répète en coulisses que le Paris Saint-Germain est tombé face à un très grand OGC Nice avec notamment un très grand Marcin Bulka et surtout que le Paris Saint-Germain aura tenté, vous en parliez tout à l'heure, 32 tirs au total, 13 cadrés, 76% de possession de balles. Alors voilà, forcément du côté du PSG, on cherche des points positifs et notamment dans la foulée de la rencontre lorsque Luis Enrique s'est présenté face aux médias.
Ce que j'ai vu, je signe pour mardi à Londres et pour le retour à Paris. On s'est procuré 30 occasions de but. Je ne suis pas du tout inquiet. J'ai une équipe qui ne spécule pas, qui joue pour attaquer, qui presse haut et qui n'arrête jamais de courir. Leur gardien a fait des arrêts incroyables. Cela fait partie du football. Je ne peux pas garantir les titres ni les trophées, mais je peux vous assurer que nous allons essayer d'être à la hauteur des attentes de nos supporters. Nous sommes de loin la meilleure équipe de France. Nous l'avons prouvé toute l'année. Et maintenant, si quelqu'un veut descendre du bateau, qu'il descende. Nous restons fidèles à notre idée qui est de gagner la demi-finale de cette Ligue des Champions.
Et à penser en gagner la semi-finale des Champions.
Il faut dire que pendant cette rencontre face à Nice, Paris a montré des signaux inquiétants dans la continuité des dernières prestations face à Angers ou encore à Nantes. L'absence de réaction, notamment, sauf après le premier but et l'égalisation derrière de Fabien Ruiz, et aussi des erreurs défensives. Paris souvent pris dans le dos, notamment Marquinhos ou encore Lucas Beraldo. Dernière information tombée ce matin concernant cette affiche de mardi, c'est l'arbitre Zlatko Vincic, arbitre slovène, qui officiera, lui qui était déjà l'arbitre du match lors de la phase de groupe à l'Emirates Stadium. On le rappelle, défaite 2-0.
Il faut faire une vidéo. Il faut faire une petite vidéo. Ouais, je pense que PSG TV devrait sortir une petite vidéo.
On est un bon monteur, si vous voulez.
Arthur, tu restes avec nous à deux jours d'Arsenal. Est-ce que vous êtes inquiet pour Paris? Stephen, toi, le grand supporter du Paris Saint-Germain.
Écoute, moi, j'essaye de me convaincre que c'est pas si dramatique que ça. Alors, dans la com et dans le management, Luis Enrique, il était hors de question pour lui de commencer à émettre des doutes après cette défaite face à Nice. Mais j'ai toujours ce petit lutin sur l'épaule droite qui me dit attention Steph, c'est quand même dangereux ce qui se passe depuis.
Il s'appelle Erwan le lutin.
Non mais c'est vrai. Après, moi je préfère quand même être toujours dans une dynamique positive avant d'aborder une échéance aussi importante qu'une demi-finale de Ligue des Champions. Moi j'aurais préféré qu'on batte Nice, qu'on fasse pas match nul à la Beaujoire contre Nantes et qu'on soit dans la même dynamique d'avant Liverpool. Même si je pense que Liverpool c'était peut-être le pic de forme du Paris Saint-Germain. Reste que ce match. Moi, on m'avait dit, on avait fait un débat dans le Moscato d'ailleurs, et je m'étais un peu embrouillé avec Eric Dimeco en me disant, mais le PSG, ils sont bons à prendre. Ils vont être sur la retenue. Moi, j'ai pas vu de joueurs sur la retenue contre Nice. J'ai pas vu de mecs ayant peur de se blesser.
Qu'il a fait le choix d'aligner son équipe.
Oui. Moi, j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain qui m'a rappelé le Paris Saint-Germain de septembre, octobre, novembre 2024, qui roule sur les adversaires, mais qui mettent pas de but, en fait. Qui mettent pas de but. Alors, ils tombent sur un Sergei Bulka exceptionnel. Marcin Bulka. Marcin Bulka exceptionnel. En fait, vous essayez de nous mettre le doute.
Qui?
Bah, vous, Benoît, Erwan.
Je ne veux pas parler.
Vous essayez Tu peux, si tu te concentres sur des choses qui vont pas, oui, tu peux te dire qu'Ousmane Dembélé n'est plus aussi brillant qu'il l'a été, qui met plus de buts. Tu peux dire que
Bradley. T'es en train de t'auto-convaincre.
Tu peux te dire que Bradley Barcola est plus aussi décisif qu'il l'a été par le passé. Moi, j'ai encore vu un Kvaratskhelia énorme. J'ai encore vu un Désiré Doué dans la défaite très bon aussi et capable de. Il y a des gens qui sont inquiétants. Vitinha est inquiétant. C'est plus l'énorme Vitinha de la période Liverpool.
C'est le Vitinha de l'OM.
Oui, c'est le Vitinha de l'OM qu'on a plus revu d'ailleurs. Marquinhos aussi. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le grand Marquinhos, le capitaine de cette équipe-là. Maintenant, t'arrives, t'es fin avril, t'as quand même. Mais c'est beaucoup de certitudes quand même en magasin par rapport à ce que t'as produit sur des gros matchs. C'est pas le moment d'avoir de l'inquiétude en fait. C'est pas le moment d'avoir de l'inquiétude pour le Paris Saint-Germain.
Je te rejoins assez là-dessus, mais la lecture elle est très dure après ce match contre Nice parce que n'oublions pas que Paris est déjà champion de France.
Mais il y a pas que Nice.
Oui, mais je comprends, mais quand t'es champion de France en sifflant comme ça sur toute la saison. Alors je sais que de l'extérieur on aime bien dire non, c'est des professionnels, faut jouer tous les matchs. Non, mais c'est pas la vérité. Ils sont champions de France tranquille et que je reste persuadé que la préparation et l'énorme match et les deux confrontations qui vont être face à Arsenal, c'est un autre métier. C'est facile de dire ça, mais je reste persuadé par rapport à ce qu'a montré le PSG, la construction qui est montée tout au long de cette saison. Je crois que mardi ils vont être au rendez-vous. Il se passera ce qui se passera. Maintenant, effectivement, on va en prendre 3 contre Nice à domicile, perdre ce truc d'invisibilité. Même si je pense que les Parisiens, ils en avaient rien à foutre.
Ah ouais, une fois que t'es dedans, Erwan, t'as envie d'y aller. Une fois que t'es dans le truc, non ?
Ok. Moi, je pense vraiment qu'ils sont dans un autre championnat, une autre dimension qui est cette demi-finale face à.
Oui, mais tu veux marquer le championnat France, tu te dis on termine invaincu, personne l'a jamais fait.
C'est quoi le but des Qataris depuis qu'ils sont arrivés? C'est gagner la Ligue des Champions. Là, plus que jamais, avec ce dernier carré-là, avec ce que propose le PSG, avec ce qu'ils ont, les clubs qu'ils ont éliminés, la manière dont ils l'ont fait, je crois que plus que jamais ils se sentent proches de pouvoir la gagner. Donc, elle est dure la lecture parce que tu peux pas faire comme s'ils en avaient pas pris 3. C'est la réalité. Tu peux pas faire comme s'ils n'étaient pas champions et que quelque part inconsciemment. Il y a psychologiquement quelques relâchés et derrière t'as ce match où en fait leur saison elle va se jouer face à Arsenal quelque part leur saison européenne donc et que si tu t'es bon contre Arsenal la lecture de ta saison elle sera différente. Après il y a des choses qui sont un peu inquiétantes. Vitinha est inquiétant, Martinez est inquiétant. Là moi c'est vraiment les deux joueurs qui pour le coup cristallisent les inquiétudes qu'il pourrait y avoir autour du PSG.
Mais est-ce que en Angleterre ils ont pas cette lecture là aussi d'Arsenal?
Saliba en ce moment il sucre les fraises hein,
il reste sur un match nul
Arsenal. Ils ont fait 2-2 contre Crystal Palace. Saliba a fait quelques erreurs, même contre le Real Madrid. Saliba fait une erreur. Ils n'ont pas joué ce week-end, donc ils auront un peu plus de fraîcheur. Bukayo Saka a été préservé contre Crystal Palace. Est-ce que nos confrères anglais ont cette même lecture d'Arsenal en disant c'est peut-être inquiétant le nul contre Crystal Palace et compagnie? Je suis pas sûr qu'ils aient cette lecture-là parce que ce qu'a montré Arsenal depuis 8 mois fait que ils pensent qu'ils vont être au rendez-vous et qu'il y a peut-être cette gestion et cette décompression face à
Crystal Palace. Et pourquoi ça serait pas pareil pour Paris alors?
Oui, mais c'est pour ça que je te dis que moi je pense que c'est pareil. Je suis pas sûr qu'on soit sur le phénomène que j'ai connu d'ailleurs, que j'ai beaucoup tenté dans ma vie, mais qui a pas beaucoup marché. C'est-à-dire bon, on fout rien et puis bon, le jour du grand match, on appuie sur l'interrupteur et ça marche. Ça, je suis pas sûr que ça soit la philosophie du PSG.
C'est pas genre de la maison.
Non, c'est pas parce qu'ils ont fait 3-4 performances moyennes. Alors oui, moyenne, il y a eu un nul, il y a eu un match vilain contre Angers pour le titre, il y a eu une victoire vilaine contre le Havre et il y a eu cette défaite. On n'est pas sur le phénomène de bon, on n'est pas bon, mais bon, le soir du grand match, on va allumer l'interrupteur. Ouais, parce qu'ils ont fait des choses avant. Tu vois,
c'est pour ça qu'il y a un sujet avant. Parce qu'il y a des mecs qui te portaient, qui te portent plus. Dembélé, il a encore beaucoup. Pour rater vendredi, par exemple.
Oui, il a encore beaucoup.
Alors, qui marque plus un but, Ousmane Dembélé, tu vois.
Sur ça, il y a quand même deux choses. Et souviens-toi, Benoît, on en a parlé avec Nuno Mendes au moment de l'interview dans Rotten sans flamme. Ouais. En dehors du fait qu'il y a cette très bonne gestion de l'effectif, les joueurs sont malgré tout fatigués. Il y a un enchaînement de matchs qui est impressionnant. Voilà, même si Luis Enrique veille à tout cela, les joueurs sont quand même fatigués. Et la deuxième chose, sur ces derniers matchs, Aston Villa, Nantes, on peut l'inclure dedans. Il y a pu y avoir à certains moments des joueurs qui ont levé un peu le pied et ça a pu interpeller aussi certaines personnes dans la direction du club. Et donc, ces errements-là, ces différents passages à vide, il y a eu 30 minutes face à Aston Villa et 15 minutes, on va dire, face à Nantes, et ben ça a pu permettre à Luis Enrique et à d'autres dans le staff de dire à certains, de les prendre un peu à part et de leur dire, attention, là, vous avez levé le pied à ce moment-là, derrière, voici les conséquences et il va falloir se méfier de ça aussi face à Arsenal dès mardi.
Tiens, parlons-en avec Mickaël. Est-ce que vous êtes inquiet à 2 jours d'Arsenal pour le PSG? Mickaël, supporter parisien.
Salut Mickaël.
Salut tout le monde.
Salut Mickaël.
Bienvenue dans Stephen Brunch. Mickaël, ça va, t'es en forme?
Bah, Ouais, pleine forme.
Passé un bon dimanche. T'as passé un bon dimanche. T'as mangé. Bah, t'as fait le marché. T'as acheté ton poulet fermier.
Beaucoup de questions.
Voilà. C'est une gardave le truc ou ouais.
mais sois le bienvenu, Mickaël. Sois le bienvenu. Hein. On est content que tu sois là malgré tout. Hein. Il s'est un peu emballé, mais t'inquiète pas.
Tant mieux. Bon, bah, écoutez, non. Pour revenir sur le match, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est Steven qui disait que il faut pas être inquiet. On a une équipe qui est formatée pour cet événement, pour ce rendez-vous. Il faut pas oublier quand même que les joueurs, malgré ce qu'on peut dire, ils ont dans le coin de leur tête le problème des blessures aussi. Donc ils lèvent le pied automatiquement pour être prêts sur ce match contre Arsenal. Certains joueurs, à mon avis, comme Dembélé, jouent un petit peu moins, on va dire, donnent un peu moins d'efforts sur ces trois derniers matchs parce que voilà, ils se préservent aussi. Donc moi, je suis pas du tout inquiet. On est une équipe qui est championne depuis maintenant trois semaines, qui a un record de matchs de sans défaite. On a quand même fait 32 frappes contre Nice, faut pas l'oublier. Donc c'est pas un match médiocre en termes de on va dire offensivement. Donc il faut être un petit peu chauvin et être serein. Et je pense que on va avoir une bonne surprise contre un Arsenal qui a pas fait des matchs extraordinaires. Hein. Il reste sur un 2-2, un match nul. Donc permettre d'avoir quelques doutes de leur côté, mais je pense qu'il faut être confiant et on va avoir une très bonne surprise, je pense, ce mardi soir pour ce match contre Arsenal.
Mais en fait, je trouve ça très paradoxal ce match contre Nice, parce que pour moi, ça va pas ensemble la prestation contre Nice où t'as 32 frappes, où t'as 13 tirs cadrés, avec le fait de lever le pied. Je trouve que ça va pas ensemble.
Parce que d'en prendre 3, c'est pas rien. Même si 100% de réussite, t'es bien au-dessus, c'est ton équipe type en plus qui a gagné. Ouais. Donc c'est pour ça que tu domines autant ce match. Nice, c'est un miracle malgré tout, parce que l'Irlande fait un match magnifique.
Et donc, est-ce que tu penses qu'on a levé le pied contre Nice?
Bah, peut-être.
Non, si tu prends du retour d'occasion, si t'as encore cette possession.
Pas forcément dans les occasions, Stephen, mais peut-être dans les duels où t'as plus dans duels quand t'es remporté par les
joueurs. Ils ont retrouvé l'intensité qu'ils n'avaient plus sur les derniers matchs. Contre Nantes, contre Le Havre, je pense que vous avez vu les matchs comme moi, il n'y avait plus la même intensité qu'on a pu avoir avant. Et là, aujourd'hui, contre Nice, en tout cas, en première période, on a retrouvé cet impact et ce côté mort de faim où ils pressaient les ballons très haut. Et après, là où je vous rejoins, c'est vrai que défensivement, il y a eu un petit lâcher prise.
Les deux et troisième but de Nice, tu dors en fait, parce que c'est le début de la seconde période et l'autre,
c'est arrêté, encore une fois.
C'est vrai, mais je pense que ça va pas se reproduire forcément. Enfin, j'espère, mais je pense que ce niveau de concentration, ils vont l'avoir contre Arsenal. C'est encore une fois des joueurs préparés, formatés pour ce rendez-vous de Ligue des Champions. Et l'attitude d'un Marquinhos, l'attitude d'un Nuno Mendes ne va pas être la même en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, où ils attendent ça, que contre Nice, où ils sont bien champions depuis trois semaines, et donc voilà.
Mickaël, merci d'être venu au 32-16 dans le Stephen Brun.
Merci, Mickaël.
Je te rappelle quand tu veux, bon match mardi soir, Arsenal PSG.
Arthur Perrault, t'as l'insider du PSG là, qui va démarrer.
Bah attends, on en parle après la pub.
Moi, okay. Si vous voulez,
il y a de quoi dire.
Moi, je vais en parler pendant la pub déjà.
Autre supporter parisien qui veut venir intervenir sur ce sujet à deux jours d'Arsenal, est-ce que vous êtes inquiet pour le PSG? À tout de suite sur
RMC. 13h-15h, Stephen Brunch.
Benoît Boutron, Stephen Brun.
13h48 toujours sur RMC, la suite du Stephen Brunch avec Arwana Boswellet et Benoît Boutron et Arthur Perrault. Puis tu continues à parler du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce Paris Saint-Germain-là vous inquiète à 48 heures d'Arsenal après cette défaite au Parc contre Nice?
Vraie question que je me pose. Supporter parisien Stephen Brun, supporter marseillais Arwana Boswellet.
Supporter marseillais Benoît Boutron.
Qui est le plus inquiet? C'est Erwan pour le match de soir ou c'est Stephen pour le match de mardi? Je pense que c'est Erwan.
Est-ce qu'il n'y a pas plus d'enjeux pour l'OM que pour le Paris Saint-Germain?
Bah non, tu rigoles.
Ah, c'est incomparable. Mais parce que si vous êtes pas en Ligue des Champions, c'est banqueroute. Hein,
mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je suis en train de te dire.
Surtout vu la mise au vert.
Alors attention, avant de reprendre notre débat foot sur le PSG, alerte, mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de judo au championnat d'Europe au Monténégro, parce que l'équipe de France par équipe vient de perdre en repêchage. Morgan Mori, salut Morgan. Non.
Bonjour. Compétition terminée revers face aux Russes en quart de finale, la France battue par la Belgique.
Belgique 2.
Ophélie Velozzi avait permis aux Bleus de mener 1-0. Elliot Prévet s'était incliné. Clarisse Agbenino a perdu sur une clé de bras face à une médaille olympique de la catégorie supérieure. Alexis Mathieu qui menait a été contré. Ça faisait 3-1 pour les Belges. 3-2 grâce à Romain Dicot. Et dans le combat décisif pour obtenir la fameuse roulette, et bien le double champion de France, Tiemann Diaby, a été collé sur le dos par Thomas Nikiforov, médaillé.
Nikiforov, il est belge.
Il est belge d'origine bulgare, Nikiforov.
Ah oui, ok.
Ils sont nommés Kalachnikiforov.
Comme au basket, on a filé quelques passeports pour que le judo se porte bien en Belgique. Hein.
Kalachnikiforov,
c'est très bien.
Pas mal.
Kalachnikiforov qui a sauté de joie partout, les Bleus éliminés et les Belges qui filent en place de 3. Fin de compétition pour les tricolores. 10 médailles individuelles dans ce championnat d'Europe, dont 3 médailles d'or.
Merci Morgan. On te retrouvera tout à l'heure dans Bartoli Time parce que Clarisse Agbeninou sera l'invité exceptionnel de Marion. Donc tu seras avec nous.
On a perdu contre les Belges jeudi.
19h30. Bah oui, ça arrive, écoute. Bah,
c'est fou, non?
Bah ouais, ça fait mal.
Alors peut-être que je respecte pas le judo belge, mais quand même.
Ouais, c'est clair. Retournons à nos moutons. Ouais, tu veux vraiment en parler?
Non. C'est ça. Viens, on change le conducteur, on fait un débat.
Tiens, accueillons Jean-Jacques, supporter parisien. Est-ce qu'il est inquiet à deux jours d'Arsenal PSG?
Salut Gigi, ça va?
Ça va les gars?
T'es en forme, Jean-Jacques?
Ouais, écoute, on fait aller. Hein.
Supporter du PSG qui habite en région parisienne?
Exactement.
Où ça?
Au Pré Saint-Gervais.
Au Pré Saint-Gervais, très joli le Pré Saint-Gervais. Ah, on a de l'oseille, j'ai l'impression. Hein. Bon alors Jean-Jacques, t'es inquiet pour ton Paris Saint-Germain?
Bah écoute, j'étais inquiet au tirage parce qu'on est tombé sur la meilleure équipe des deux. Arsenal, c'est plus fort que le Real de Madrid cette saison. C'est l'équipe anglaise. L'intensité, on a vu ce que ça avait donné au retour avec Villa et même sur la double confrontation avec Liverpool. Donc les équipes anglaises, c'est compliqué pour nous et pour notre jeu. Donc j'étais inquiet à ce moment-là. Après, je suis pas plus inquiet par rapport au résultat de l'équipe. On se retrouve un petit peu dans la situation du début de saison. Beaucoup d'occasions, on met pas dedans. On avait su corriger. Par contre, là, le seul véritable bémol, mais on en avait parlé, c'est défensivement. Je trouve que défensivement, on a les mêmes carences depuis le départ. Les coups de pied arrêtés, les ballons au duel, et c'est toujours pas corrigé.
Et ce sera pas travaillé. Hein. C'est Luis Enrique qui l'a dit en conférence de presse.
Voilà, et ce sera pas travaillé. Et je me dis qu'au bout, d'un moment, c'est que on l'a vu, enfin nous on l'a vu en tant que, qu'observateur, supporter, tout ce que vous voulez, on a vu que c'était un souci. Je pense que les Anglais l'ont vu aussi. On ne veut pas le travailler et c'est peut-être la seule chose qui m'inquiète. Voilà, c'est sur la partie défensive. Après pour le reste, je suis supporter parisien, si j'y crois pas à ce moment-là, j'y croirai jamais. Donc j'y crois dur comme fer, il faut y aller, on va le faire. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'effectivement on soit un peu plus serein défensivement. Après, quand tu as beaucoup d'occasions, tu ne les mets pas dedans. Tu dis qu'à un moment donné, ça va tourner, c'est le football. Par contre, défensivement, toi, c'est des ajustements qu'on n'a pas su faire depuis le début de saison. Et là, ça m'inquiète déjà un peu plus.
À l'image du match aller, tu avais pris un but sur coup franc.
Et c'est vrai que plus globalement, cette saison, on a beaucoup parlé
de poule.
On a beaucoup parlé de l'attaque du Paris Saint-Germain, de la possession, du nombre d'occasions créées. Et je ne dis pas que ça masque. Mais souvent, la défense du Paris Saint-Germain a été, pas en difficulté, mais a quasiment tout le temps pris des buts. On a souvent concédé des occasions. On prend beaucoup de buts, le Paris Saint-Germain.
Tu concèdes l'ouverture du score au Parc contre Aston Villa.
Oui, tu prends à Dunkerque, tu prends deux filoches d'entrée de jeu. À Saint-Etienne, tu gagnes 6-1.
Mais tu prends un but contre Liverpool à l'aller à la fin du match, alors que tu as 60 000 occasions.
À Saint-Etienne, tu gagnes 6-1, mais tu prends une ouverture du score où tu es mené 1-0. Alors, le problème, c'est que la puissance offensive du Paris Saint-Germain a masqué un petit peu ça et qu'on a tendance à mettre ça de côté. Mais c'est vrai que jouer Arthur Perrault, faire hocher la tête.
Non, c'est parce que dans le contenu, sinon, oui, il y a ces buts encaissés, mais dans le reste de la prestation et l'implication offensive qu'il leur est demandé, je pense à Hakimi, à Nuno Mendes, c'est plus que satisfaisant. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est le revers de la médaille.
J'allais dire, quand Hakimi et Nuno Mendes sont tellement impliqués offensivement que derrière, à un moment donné.
C'est la concession à faire. C'est-à-dire que tu peux écraser une équipe, comme tu disais, comme Saint-Etienne. Mais tu peux t'en prendre un sur ce type de match.
Jean-Jacques, reste avec nous. Juste, on va demander à Arthur la compo probable pour mardi. Ça nous intéresse. Est-ce qu'il y a des doutes dans cette équipe?
Le même que avant Aston Villa, en fait. Presque du classique pour le reste. Donnarumma dans la cage, la défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho Mendes. Au milieu, Neves avec Vitinha et Ruiz. Devant, Gvara à gauche, Dembélé en faux numéro 9. Et donc, la question qu'on va se poser une nouvelle fois, c'est est-ce que ce sera Doué ou Barcola, sachant que Arsenal risque de jouer haut, il y aura des espaces en contre pour les joueurs parisiens. Au vu de la dernière performance de Doué face à Nice, Doué qui était titulaire et qui a connu quelques difficultés, voilà, c'est le choix que va être amené à faire Luis Enrique sur cette rencontre.
Vous préférez quoi, vous? Jean-Jacques, tu préfères quoi, toi?
Doué tous les jours.
Moi aussi.
Ouais, je sais pas. Erwan me disait tout à l'heure qu'il préférait Doué en sortie de banc pour impacter une fois que les mecs étaient un peu plus derrière.
Ben c'est ça, surtout c'est pas juste la question, c'est pas qui est le meilleur en ce moment.
Non.
La question, c'est aussi prendre Arsenal, et Arthur vient de le dire, qui va jouer haut, qui va avoir la balle. Donc si tu dois aller leur faire mal dans la profondeur, je préfère, vous m'avez compris. Je me dis que Barcola, il peut leur faire mal, et chaque fois que Doué est sorti du banc en deuxième mi-temps, par exemple, si tu dois garder un score, si tu dois aller chercher peut-être sinon
sinon une égalisation ou garder le ballon. Mais j'aime bien que Doué, chaque fois qu'il rentre, qu'il sort du banc à une demi-heure, trois quarts d'heure, il peut amener des choses aussi.
L'état de forme, il n'y a pas de problème.
C'est pas la question, l'état de forme aussi. Faut prendre aussi contre qui tu joues.
Mais des deux joueurs, si tu veux, Doué, c'est celui qui est le plus sûr techniquement. Et à un moment donné, au milieu de terrain, même s'ils veulent jouer haut, au milieu de terrain, tu vas avoir besoin de gars qui sont capables de garder la balle, de gars qui sont capables de la ressortir correctement. Et Barcola, s'il n'a pas les espaces, s'il n'a pas la vitesse, finalement, il ne t'apporte rien.
T'as raison, Jean-Jacques.
Alors que Doué, il a du volume. Doué, il est capable de faire des efforts défensifs aussi. Il est capable de garder la balle. Et il est capable de lancer Gvara ou lancer Dembélé de l'autre côté. T'as pas besoin d'avoir forcément trois fusées pour partir. Gvara, il peut le faire. Dembouz, il peut le faire aussi.
Jean-Jacques, c'est brillant. Vara dans la profondeur, en tout cas, Jean-Jacques, si je suis coach, tu serais pas mon assistant. Je te dirais. C'est bon signe.
Moi, je préfère Doué sur ce que j'ai vu, sur la forme du moment. Maintenant, Luis Enrique, il a déjà un plan en tête. Il sait comment Arsenal va jouer. Est-ce qu'il a envie de les punir dans le dos? J'ai quand même l'impression que Barcola, lancé, a peut-être un peu plus de qualité que Doué, qui est meilleur sur des petits espaces pour éliminer, sur du 1 contre 1 sur des petits espaces. Si t'as Barcola, c'est Barcola à droite avec Hakimi qui se projette énormément et qui parfois se retrouve à côté de Dembélé dans l'axe. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir Doué, effectivement, qui est un peu plus revenir en arrière et reculer? Mais je sais pas, en fait.
Supporter parisien, méfiez-vous d'Erwan qui n'a qu'une envie, c'est que vous trébuchiez.
C'est pas vrai, j'ai envie de voir un grand match de ballon, un peu.
Il a aucune envie de vous voir en finale de Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il dit ça.
Ah oui, il veut mettre Mayulu titulaire.
Ouais. Erwan,
gardien. Et là, je suis en train de regarder les stats de Bradley Barcola, il a pu mis un but depuis le 8 mars.
Non, mais si la question c'est en ce moment qui est en forme, qui n'est pas en forme, le débat il est réglé. Après, si on connaît Arsenal, ils aiment bien avoir le ballon, ils jouent haut. Quand t'as un mec comme Barcola, tu te poses deux fois la question avant de te projeter complètement. Voilà.
Tu préfères Declan Rice, toi, ou Steph Curry?
Gris ou Curry, c'est une blague que je faisais en cinquième, c'est minable. Voilà.
En cinquième? Steph Curry était déjà là en cinquième?
Non, mais il y avait son père.
Ah ouais, Del Curry. Mais par contre, il y avait Glenn Rice.
Il y avait Glenn Rice. Ouais. Donc, c'est des blagues.
C'est une conversation de basketteur, là.
Ouais, c'est pas très intéressant, du coup. Ouais. Merci, Jean-Jacques.
Je comprends pas que c'est pas intéressant, Benoît.
Et pas très concernant. Merci, Jean-Jacques.
Merci, Jean-Jacques.
Merci, Jean-Jacques. Bon match mardi, hein.
Bon, je vous invite au Pré Saint-Gervais, Jean-Jacques.
Ah bah il est parti, ça y est. Tu vois, tu lui as reparlé d'oseille.
Ça c'est 300 mètres carrés, jardin, Pré Saint-Gervais, peinard.
Pas mal, Pré Saint-Gervais.
Vous savez, c'est correct. Hein, parce que je suis pas loin, moi. Attends, ah, c'est moins correct.
Je suis à Bagnolet, donc.
Bagnolet. moins d'oseille. Moins d'oseille.
Merci à Arthur Perrault.
Salut, messieurs.
Qui sera avec nous tout le début de semaine et sur ce match Arsenal PSG grande soirée
demain 21h.
Demain matin.
Oui.
Eurostar.
Oui, monsieur.
Première classe, business.
Non, je n'ai pas cette chance.
Bon, c'est pas grave.
Merci Arthur. Dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille. Erwan, est-ce que l'OM va résister à la pression face à Brest?
Eh oui,
on le souhaite, on le souhaite.
À tout de suite.
RMC, jusqu'à 15h, Stephen Brunch.
Benoît Boutron, Stephen Brun.
14h06, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur RMC dans le Stephen Brunch avec Erwan Abotrette et Benoît Boutron, votre émission chaque dimanche de 13h à 15h. Ça va les amis?
Ça va très très bien.
Benoît, tu es passionné par quoi là?
Ah, je suis passionné par le Grand Prix de MotoGP parce qu'il y a un sacré fait de course, Paul Lafitte, au Grand Prix d'Espagne.
Ah. Qui était en tête et à l'instant, c'est donc évidemment ce pilote Ducati officiel qui est sorti. Eh bien, on ne s'attendait pas à ça, car évidemment, il était l'un des grandissimes favoris, Marc Marquez, qui avait remporté 4 des 5 premiers Grands Prix de la saison, qui avait chuté à Austin, mais qui était bel et bien le leader de ce classement général et qui a donc chuté avec la pression de son frère Alex Marquez, qui était vraiment dans ses échappements, alors que Fabio Quartararo lui est toujours en tête. Ouais, il a perdu l'avant dans le virage 6. Marc Marquez, il a pu se relever, repartir, mais ce sera compliqué, évidemment. Mais on va se concentrer, Benoît, sur notre tricolore. Fabio Quartararo toujours en tête avec 2 dixièmes d'avance désormais sur Pecco Bagnaia, la 3e position pour Alex Marquez. Ça se passe moins bien désormais pour Juan Zarco qui est en 13e position. 4 tours de couvert donc ici à Reres de la Frontera.
L'autre grand direct, c'est la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. On en parlera à 14h30 avec la Dream Team Vélo. Maria Azé est sur place. Jérôme Pinot nous rejoint. Salut Jérôme.
Salut les garçons.
Salut Jérôme. Salut Jérôme.
On débattra de Tadej Pogacar. Christophe Cessieu va nous rejoindre lui aussi. Où en est-on au niveau de la course, Maria? Il reste combien de kilomètres à parcourir?
88 km de l'arrivée, Benoît. Il reste, bon, arrivée prévue autour de 16h30, hein, donc il reste encore à peu près 2h30 de course. Une petite échappée d'une dizaine de coureurs s'est formée, hein, une petite échappée matinale, comme souvent sur les classiques depuis le début du printemps. Et cette échappée, elle a 2,05 d'avance sur le peloton. Alors évidemment, pour l'instant, les favoris Remco Evenepoel, Tadej Pogacar sont bien cachés au milieu de ce peloton et on s'attend à une grosse bataille autour de la côte de la Redoute qui sera à 34 km de l'arrivée.
Jérôme, forcément un duel Pogacar-Evenepoel ou un outsider peut faire la différence cet après-midi, à ton avis?
Ah bah les deux grands favoris, on les a nommés, hein. C'est clair que si les deux-là sont en forme comme ils le sont depuis le début de la saison et depuis la reprise de Remco, il y aura pas de surprise à Liège. C'est une course très difficile, l'une des classiques les plus difficiles du calendrier. Maintenant, on peut avoir un Scale Mose qui a chuté mercredi, qui peut jouer avec ceci. Ça dépendra de la course, évidemment. Puis on attend aussi nos Français, Kevin Vauclin, deuxième de la Flèche Wallonne mercredi. On attend aussi Valentin Madouas et surtout notre petit prodige, Romain Grégoire, qui petit à petit arrive à être avec les grands. Donc on espère côté français avoir une belle surprise, mais clair, les grands favoris sont Tadej Pogacar et Remco Evenepoel.
Vous restez avec nous, Jérôme, Maria, Paul Lafitte pour le Grand Prix d'Espagne. On rappelle que Fabio Quartararo est toujours en tête du Grand Prix de Jerez.
C'est que je crois que depuis que le Stephen Brunch existe cette saison, j'ai pas vu un Français gagner quelque chose en direct dans l'émission. Là, le judo a perdu contre la Belgique. Le skieur, on n'en parle pas. Attention, Fabien, parce que t'es pas à l'abri de faire une sortie de roue, je te le dis tout de suite.
Fabio,
pardon. Fabien, la française. Fabien Quartararo.
Le pire traumatisme, c'est Lou Jean Monod, rappelle-toi.
Ah, Lou Jean Monod. Terrible, on est déjà là. Lou Jean Monod, j'ai eu Steven Ami aussi.
J'ai pleuré jusqu'au lundi matin.
C'est le pire.
Pas un Français qui a gagné dans l'émission.
C'est fou.
Porte la cheville. Tu vas le faire, Quartararo?
On espère, bien sûr. J'espère que ça va tenir.
Fabien.
Bon, c'est l'heure de vérité pour l'OM ce soir. Marseille-Brest, 20h45 au Vélodrome. Match à suivre sur RMC. C'est la dernière rencontre de la 31e journée de Ligue 1. Une grosse pression sportive à 4 journées de la fin. Marseille, 3e à l'heure où on se parle. Lyon, Nice et Strasbourg ne sont qu'à un point. Et puis Lille peut passer devant en cas de succès à Angers. Match à suivre dès 15h sur RMC. Parlons-en avec Florent Germain. Salut Flo.
Salut Flo.
Salut les amis. Salut à tous.
Bon, le tennisman le plus nerveux de la région PACA.
Non,
arrête de créer des réputations.
Eric a pris l'exemple d'une défaite, mais ça m'est arrivé de gagner les matchs.
Voilà, bon,
je suis pas toujours énervé.
On te fait confiance. La semaine a été marquée par ce stage italien pour joueurs et staff marseillais. Quel bilan on tire alors de ce stage cette première semaine en Italie?
Ils ont progressé au ping-pong, hein, Flo.
Oui, exactement. Je sais pas si Ulysse Garcia dit vrai, puisqu'on l'a vu hier en conf, il disait qu'il était injouable. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un contraste entre la perception qu'on peut avoir de l'extérieur. De décisions comme celle-ci, de stage, d'être en vase clos, etc. Et puis après, quand tu vois les joueurs, c'était notre cas hier à l'entraînement à la Commanderie. Bon, honnêtement, l'ambiance, elle était très bonne. Hein. J'ai vu une partie de la séance d'entraînement. Il y avait des sourires. Moi, j'ai envie de les croire hein, quand les joueurs, notamment Ulysse Garcia, nous disaient hier que ces quelques jours, ils servaient dans la cohésion. Ça a pu surprendre à ce moment de la saison. Ça a pu surprendre qu'on dise, allez, on part à Rome, préparer un match au Vélodrome, l'environnement marseillais un peu bruyant, ça c'était les termes du président Longoria, mais Roberto De Zerbi, il a insisté sur le fait que pour lui c'était un peu l'objectif de casser la routine, de s'aérer un petit peu l'esprit. Il avait besoin de retrouver certains joueurs plus frais physiquement peut-être ou dans les têtes. Ces 3-4 jours à Rome, effectivement, il y a eu des entraînements studieux, il y a eu peut-être un peu de piscine, le ping-pong, un barbecue avec le staff. Il y a eu un resto un soir, je crois que c'était le jeudi, avec uniquement les joueurs entre eux. Ce sont des moments que tous les sportifs connaissent, mais qui a priori ont fait du bien, même si la vérité c'est celle de tout à l'heure. Hein. Et c'est vrai que le Vélodrome, j'ai raconté cette semaine que certains supporters étaient restés. Enfin, ne condamnent pas cette décision ni estiment qu'elle est extraordinaire. C'est juste que les supporters ils demandent à voir et ils se disent bon ok, mais maintenant faut gagner quoi, parce que c'est sûr que si ça gagne pas ce soir après toute cette semaine et le fait de partir à Rome en escapade. Ça fera un petit peu bizarre, ça fera un vrai couac.
Reste là Flo avec nous, est-ce que l'OM va résister à la pression face à Brest, Stephen?
Écoute, cette question est marrante, puisqu'on se rappelle il n'y a pas si longtemps que ça que le Marseillais était quand même peinard à la deuxième place et que la pression n'en avait pas beaucoup et que finalement ils se sont remis tout seuls dans le caca, on ne va pas revenir pourquoi. Donc la pression déjà ils ne l'ont pas bien gérée alors qu'ils étaient plutôt peinards. Là, Celui qui s'est mis peut-être le plus la pression, c'est peut-être le coach lui-même, Roberto De Zerbi, parce que c'est sa décision, Flo, hein, cet exil à Rome.
C'est une très bonne question, parce que...
Il y a un doute.
Non. Moi, mon info, c'est que ce sont les dirigeants Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui sont allés voir Roberto De Zerbi en lui disant écoute, je pense que c'est le moment. Est-ce que t'es d'accord pour faire un ritiro? Benatia a l'habitude aussi des équipes italiennes, Pablo Longoria aussi. Et Roberto De Zerbi a consulté ses cadres et il a dit banco. Après, la version de Roberto De Zerbi, c'est plus celle d'une décision commune. Je pense qu'il veut aussi avoir la paternité de l'histoire parce que c'est quand même son groupe, c'est aussi lui le manager. Donc voilà. Pour rigoler, pour l'anecdote,
la paternité,
on a le sentiment
bien.
Que tout le monde veut avoir la paternité du truc.
La paternité, c'est bien, mais si ça se passe bien, si l'accouchement n'est pas douloureux, parce que si jamais ça se passe mal, Les arbitres vont dire non, mais c'est Mehdi, c'est l'idée de Mehdi, Mehdi Benatia,
c'est pas moi le père.
Donc voilà, en fait, cette décision-là, elle accentue la pression pour l'OM, en fait, parce que.
Ils sont presque capables de dire que c'est Fabrizio Ravanelli.
Oui, voilà, ça passera bien. Mais non, parce qu'en fait, mettre ça en place, ça veut dire que tu fais comprendre à tout le monde, aux supporters de l'OM, aux joueurs aussi en eux-mêmes, que c'est extrêmement important ce qui va se jouer sur la fin de championnat. On va pas répéter les enjeux financiers, sportifs déjà, mais financiers pour l'Olympique de Marseille d'être absolument en Ligue des Champions. Maintenant, tu reviens à l'OM, tu reviens de Rome, Roberto De Zerbi. Non, mais vous rentrez pas chez vous, vous dormez encore à la commanderie, c'est ça, hein, Flo? Finalement, ils ont resté à la commanderie.
Alors exactement. Moi, ça me choque pas plus que ça parce que.
Je me mets dans la peau de joueur. Moi, j'étais
pas
joueur.
Pour les lâcher les joueurs.
Oui, je suis d'accord. Moi, j'étais joueur. Tu m'envoies 4 jours à Rome. Je rentre chez moi à Marseille. J'arrive, je suis content. Non, finalement, je dois dormir à la commanderie. Bon, il faut gagner ce soir au Vélodrome. Je vous dis parce qu'à bout d'un moment, les mecs, ils vont dire, ouais, ils nous fatiguent, tonton Mère, là, avec ces trucs et ça. Mais si on gagne pas, surtout que tu Brest, qui mine de rien arrive à Marseille. Bon, je caricature un peu, mais en claquette chaussettes, il fait beau à Marseille. La fin de saison,
9e
c'est que du bonus. La saison, on a fait une belle campagne de Ligue des Champions. Eric Roy, ancien Marseillais, qui va peut-être sûrement être content de revenir jouer au Vélodrome. C'est un match qui est piégeux parce que Brest n'est pas une équipe minable. C'est une équipe qui joue bien au football, capable de faire des bonnes prestations et surtout qui est là pour enquiquiner Marseille. Maintenant, comment s'est passé ce stage? Est-ce qu'ils ont récupéré les garçons qui étaient un petit peu à côté du groupe? Que parle en termes d'investissement et en termes d'envie sur la fin de saison, est-ce qu'ils ont récupéré ces garçons-là? Le Vélodrome, à un moment donné, même si c'est un petit peu aseptisé, je suis pas sûr que à ce stade de la saison, ils vont faire des cadeaux aux joueurs si jamais ça se passe bien, si jamais Brest ouvre le score d'entrée de jeu au Vélodrome, comment la réaction des Marseillais va se passer? Je suis très curieux de voir le bilan. Je suis très curieux de voir le bilan de ce stage à Rome et de comment aborder ce match et ce dernier sprint final en fait.
Surtout qu'il faut peut-être y repartir.
Mais oui.
Ouais.
Mais moi, ce stage. Pardon, Flo.
Non, puisque c'est une possibilité.
Ce stage à Rome, il est dur à décrypter encore aujourd'hui. Et Flo, il a raison, c'est sur le terrain que ça va se passer. Parce que si à ce moment-là de la saison, pour des matchs de championnat, certes ultra importants, t'es obligé de te mettre dans une bulle, c'est que quelque part en amont, l'OM n'était pas prêt à faire la fin de championnat qu'ils sont censés faire. Donc moi, c'est d'abord ça où je me dis bon, ok, ils ont besoin de se retrouver entre eux. Mais alors que cette année il y avait pas de Coupe d'Europe, ils ont eu quand même tout le loisir de bien bosser la semaine, mais finalement ils sont peut-être pas arrivés au point où De Zerbi espérait. Donc finalement il a besoin de recentrer les mecs dans un cocon complètement hermétique en rajoutant une nuit en plus à la commanderie. Si tu gagnes pas ce soir après ce stage là, c'est quasiment un qui tout double. De toute façon là tu fais Brest à domicile,
après, tu vas à Lille.
Si ce soir t'as pas un résultat positif, et quand je dis résultat positif, c'est victoire,
3 puntos.
Là, il y a grosse inquiétude. Donc, si tu gagnes pas ce soir, il y a grosse inquiétude. Ça veut dire que ce soir, il y a grosse pression. Et c'est que des matchs de coupe. Et quand je vois, tous les gros matchs qu'a eu à jouer l'OM cette saison, que ça soit les deux fois le PSG, le match de Coupe de France face à Lille, Lyon, sur le match au Vélodrome aussi, j'espère qu'en tout cas, ils se sont trouvés une âme que j'ai pas toujours trouvé dans les grands matchs cette année.
Et surtout, ce mot pression, il est accentué par les résultats qui ont eu lieu vendredi et samedi.
Ils ont dû dire, allez, les salopes du Paris Saint-Germain. OK, ils perdent chez eux, contre Nice, qui permet à Nice de revenir dans la course. Ils ont vu Strasbourg gagner. Ils ont vu Lyon détruire Rennes. Il y a Lille qui joue un peu avant eux. Donc, ils sont
maîtres de leur destin. Et ça encore, je veux bien que, Monaco a fait match nul au Havre, il me semble, c'est ça?
Ouais,
mais derrière, les équipes gagnent, mais il reste 4 matchs. Tu es maître de ton destin. Tu fais 4 bons résultats, tu gagnes 4 fois.
T'es deuxième.
T'as la musique,
Donc au bout d'un moment, je veux bien que les autres derrière ils fassent ce qu'ils veulent. Mais Marseille, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a eu, cette saison, ils sont encore maîtres de leur destin. Le reste, c'est de la littérature. Et comme on sait pas lire, ça nous arrange.
Allez, Chris, supporter de l'OM, nous rejoint en 32-16. Salut Chris.
Salut Chris. Ça va, t'es en forme?
Ouais, ça va, moi.
Et tu nous appelles d'où, Chris?
De Nîmes. J'avais normalement Bellegarde, mais là, je suis chez ma sœur pour un petit repas d'anniversaire de mon neveu.
Joyeux anniversaire au neveu. Est-ce que t'as payé le stream à 10 balles pour ton neveu pour regarder le concert de Julia au Stade de France?
Je l'ai même pris à 20 balles.
Tu l'as même pris à 20 balles le stream?
Double dose.
Bon alors Chris, raconte-nous la pression pour l'OM ce soir. Ils vont la gérer ou pas?
Pour moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est ce soir, c'est un tournant pour Marseille. Pour moi, c'est le tournant du championnat, de la fin du championnat. Voilà, c'est simple. Ce soir, si tu fais pas un bon résultat, derrière, je pense que tu vas prendre un fourgon contre Lille. Et puis, bon, après le Havre-Rennes, ce soir, tu prends 3 points. Tu peux te permettre de. Je pense que tu peux te permettre un petit match nul ou un faux pas à Lille. Et derrière, tu prends le Havre qui est pratiquement un des deux, et tu prends Rennes qui joue plus rien.
C'est vrai que le plus gros match sur le papier, c'est la semaine prochaine à Lille.
Oui, c'est les deux plus gros, c'est cela en fait.
Ils sont partis à Rome pour se soulager la tête, moi.
Tu penses que c'était une bonne idée, Chris?
Je pense que le problème, c'est que quand tu vis à Marseille et que vu les résultats qu'il y a eu là, on a si tu regardes bien le déroulement du championnat, on a eu plusieurs fois. La chance où les poursuivants ont perdu et à chaque fois on n'a pas joué le coup. On a fait un mauvais résultat. Là ce soir, derrière tu mets Lyon à 3 ou à 4 points, je crois.
Ouais.
Et
Lyon et Nice à 4 points, ouais.
Et tu mets
attention
Lille,
à Lille, hein.
Lille gagne, ils ont 56, hein.
Ils passent devant, ouais.
Mais si Lille, ils n'ont pas gagné à Angers quand même.
Non, ils n'ont pas gagné encore.
Oui, sur le papier, il y en a beaucoup qui ont gagné à Angers.
Ouais, il y en a beaucoup qui ont gagné à Angers, mais ils n'ont pas gagné. Là, c'est la fin du championnat.
C'est vrai.
Angers est un peu. Hein, moi, je pense que ce soir, les 3 points, c'est le plus important. Et vu le score qu'ils ont fait contre Monaco, je pense que le stage, ça a été pour remettre un peu tout le monde.
Ah mais c'est aussi que le quotidien ne paraissait pas assez bon à la commanderie pour que les dirigeants décident d'aller à Rome dans un pays étranger carrément préparer cette fin de saison ultra importante. Je me dis ah ouais, donc en fait c'est depuis des semaines le quotidien à la commanderie ne devait pas être bon, après, la qualité d'entraînement ne devait pas être bonne.
Mais après Flo, je crois que c'est Mehdi Benassia qui disait que enfin à commanderie l'atmosphère, qu'il y a trop de gens qui parlent et des gens de l'OM en fait, de l'environnement de l'OM. Et
voilà, c'est un mélange de tout, pourtant.
Et qu'à un moment donné, c'est dit on va se mettre à l'abri. Comme ça, s'il se passe des choses, et ben ça voilà, reste entre nous.
Si jamais
Luis Felipe, il met un hat-trick à l'entraînement, tu vois, personne l'a vu.
C'est le seul qui risque de ne pas être dans le groupe puisqu'il y a une inflammation à l'œil et que même Roberto De Zerbi en était un petit peu blasé parce qu'il disait j'ai pas trop compris ce que m'a dit le médecin, mais bon il a mal à l'œil. Mais oui, c'est un tout, la commanderie où on a voulu recadrer certaines choses, savoir qui appartient vraiment au secteur sportif, qui doit prendre ses distances, quelques crispations qu'il y avait entre quelques joueurs.
J'ai l'impression que Fabrizio il a fait un pas en arrière.
Fabrizio Ravanelli.
Il était à la soirée NBA hier à Marseille avec Mike Pietrus
convoqué. Envoyé par l'OM, dépêché par l'OM.
Principalement de l'institutionnel, effectivement. Bon, voilà, il y a eu quelques histoires en interne. Après, vous ajoutez à cela peut-être le sentiment que les joueurs vont être encore plus dans leur bulle. Il y a des jeunes papas dans l'effectif, Greenwood, Rongier. Donc voilà, peut-être que tous ces petits détails font qu'on se dit allez, on va les couver. Ils vont être tranquilles. Ils vont pas devoir se réveiller en pleine nuit si jamais ça pleure. Je sais pas. Il y a une somme de petits détails qui ont fait qu'on a pris cette décision.
Flo, tu sais quoi? On va revenir dans un instant, on fera le point sur la compo probable pour ce soir. Oui. La question, c'est de savoir si Bellardi va démarrer ou non. On remercie Chris qui est venu au 32-16. Et on retourne en Espagne pour le Grand Prix MotoGP.
La tradition du Stephen Branch.
Avec cette belle bagarre entre Quartararo et Marquez, Paul Lafitte.
Ouais, Benoît, le pilote Yamaha qui aura mené pendant 10 tours, qui s'est fait déposer par Alex Marquez au bout de la ligne droite. Alex Marquez qui compte désormais quasiment une seconde d'avance sur le pilote tricolore. Et la troisième position pour Pecco Bagnaia qui est revenu lui aussi dans les échappements de la Yamaha. On sait que Fabio Quartararo n'a plus gagné un Grand Prix depuis 3 ans, mais avec cette pole position, eh bien, il aimerait bien remonter sur la boîte. Son dernier podium, c'était en Indonésie en 2023. Donc pour l'instant, Alex Marquez est en tête devant Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. On rappellera la chute également de Marc Marquez qui est désormais 19e et l'autre français Johan Zarco est dans les points, la 14e position. Il reste 12 tours à couvrir ici sur ce circuit de RS de la Frontière.
Et l'effet Stephen Brun sur les sportifs français se confirme malheureusement. Bon, espère voilà. Que Fabio,
dommage que l'OM joue pas à 13h.
Ouais, ça fait plaisir. Allez, on continue sur l'OM dans un instant. Est-ce que l'OM va résister à la pression face à Brest? On vous attend en 32-16. On aura la compo ce soir grâce à Florent Germain qui est avec nous tout de suite.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch,
Benoît Boutron, Stephen Brun.
14h25 sur RMC, de retour dans le Stephen Brunch avec Erwan Abotret et Benoît Boutron. Les amis, on continue à discuter de l'Olympique de Marseille qui affronte Brest ce soir et... Quartararo, il en est où, notre ami MotoGP?
Le Grand Prix d'Espagne, Paul Lafitte.
Et il est toujours en deuxième position. Il reste 10 tours à couvrir. La position de pointe pour Alex Marquez devant donc notre pilote tricolore. La troisième position pour Pecco Bagnaia. Le deuxième français, eh bien, il s'agit de Johan Zarco qui est en 13e position. Bien plus loin, bien le leader du championnat du monde qui pourrait perdre justement son strapontin de leader. Marc Marquez qui avait bien claqué le deuxième temps des qualifications, qui a chuté après quelques tours en perdant l'avant. Il est reparti, mais il est 18e du classement général. Il reste 10 tours à couvrir donc ici en Espagne.
Je t'ai déjà vu sur un scooter, jamais sur une moto. Je t'imagine pas sur une moto.
Oh non, 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 c'est trop grand là. Trop grand.
On lui avait acheté un cuir pour son anniversaire de motard, il a jamais mis.
C'est vrai?
Non, ben non. Je suis époustouflé, les mecs dans les virages, dans les genoux qui touchent par terre, le bitume et tout ça pour.
Mais t'as pas un physique de motard.
Alors, ton problème, c'est que le genou, il est vite au sol.
J'ai jamais voulu être motard, moi. Laissez-moi tranquille.
Le scooter, il a 3 roues pour l'équilibre.
Oui, alors, ça arrive à des gens bien.
Lui aussi.
Ben oui.
Tout a le même gabarit, à peu près. On continue sur l'OM. Florent Germain est là. Est-ce que l'OM va résister à la pression face à Brest ce soir avant d'accueillir Garen, supporter marseillais? Flo, la compo probable pour ce soir. Alors, Balerdi titulaire ou pas?
Normalement non, il va être dans le groupe. En tout cas, ça a été annoncé par l'OM. C'est déjà bien. Hein. Il a été blessé il y a un petit peu moins d'un mois, le 29 mars. C'était sur la pelouse de Reims. Donc voilà, qu'il soit déjà de retour dans le groupe, ça veut dire qu'il a bien bossé et le staff médical avec. Rouli dans le but, Murillo, Kondogbia et Ulysse Garcia pour le trio axial. A priori, devrait pas y avoir beaucoup de changements. Luis Enrique et Merlin pour les pistons. Rongier et Huybier au milieu de terrain. Donc Bennacer débuterait sur le banc et Greenwood, Rabiot, Guiri pour le trio offensif. Voilà, la tendance concernant Léo Balerdi, c'est qu'il est de retour dans le groupe, mais qu'il voilà, s'il a des minutes, s'il fait son retour à la compétition, ce sera plus en cours de jeu, peut-être pour anticiper le match très important de Lille la semaine suivante.
Accueillons Garen, Stephen.
Ouais, salut Garen, il est de Colombe.
Moi j'aimerais revenir sur la compo que donnait
bonjour Garen. Il n'y a pas de bonjour Garen, on démarre ça direct.
On sait pas du tout. Si, j'ai dit bonjour, mais vous n'avez pas besoin
de. C'est de Marseille, dis-nous où tu viens.
Ouais, je suis de Marseille.
D'où?
D'ailleurs, Stephen, tu veux pas passer ton émission mardi soir, plutôt avec Zener, je crois qu'il y a une créneau de libre.
Tu es d'où à Marseille? Dis-moi, j'aime bien mon savoir.
Je suis de Beaumont, le quartier.
Ah, de Beaumont. Bien sûr, moi je suis de Saint-Bernabé, bien sûr.
On veut finir.
Mon frère, il a joué au Celtic Beaumont.
Dans le 12e arrondissement, en force.
Le 12e, bien sûr.
Le 12e en force.
Ce que je vous propose, Flo, Erwan et Garen, on passe vos 06 et vous discutez après l'émission, non?
Ça va, ça va.
Le Celtic Beaumont, ils
avaient dit. Tu vois le casser à la rotonde, Garen, ou pas?
Ouais, le bar du Chêne en rotonde.
Mais voilà, c'est ça.
On y est. D'ailleurs, Florent, on a un ami en commun qui est Hugo.
Hugo, oui.
Ah oui, Hugo.
Bon. Ah, le fromager.
Ouais, le fromager, effectivement. Ouais. Bon, avant, sinon, on va commencer à parler de Lugiard.
Un ami de mon fils. D'ailleurs, il a deux herbies en triple. Son fils, il paraît dans les cartes et mon fils essaye de lui attraper. Il n'y arrive pas. Donc, si tu peux passer le message. Lugiard,
c'est le club familial.
Attendez, vous êtes où, là? Vous croyez où, là, les mecs?
Les mecs, ils échangent des cartes panini. Ils échangent des cartes panini. Ils échangent des cartes panini. Il nous dit que 200 grammes de Beaufort à la fromagerie, c'est pas 12,50. On va arrêter, non, quand même.
C'est ça, Marseille Bino.
Et pourtant, il est arrivé très énervé, Garen. Voilà, vas-y.
Sérieux, j'aimerais rebondir sur la combo déjà que vient de donner Florent Germain. Moi, j'aimerais comprendre comment tu peux jouer un match comme ça où tu es dans l'obligation de gagner avec seulement deux joueurs offensifs. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre.
Bon, ça fait six mois que ça dure, ça.
Mais là, c'est dans l'obligation de gagner. Tu peux pas faire un match nul, tu peux pas. Là, il faut gagner, tu vois. Et quand je vois le deuxième temps de Montpellier, où justement, c'est là où tu as performé en faisant rentrer des joueurs offensifs, ben, je sais pas comment cette équipe commence le match avec Gros, avec Mopé. Mets-moi un peu de la qualité devant, quoi. Puisque là, le match va commencer, ça va être pareil contre Montpellier, on va ronronner, on va avoir des passes, ça va jouer petit bras et on va attendre un petit exploit de Greenwood. Voilà. Donc, déjà, bon, je voulais rebondir sur cette.
Mais c'est tout le fond du problème, hein, Garen. Ça fait des semaines qu'on le dit, le système de jeu n'a pas changé.
Benoît, Garen, Flo et Erwan, on a beaucoup parlé du stage, de la pression, de l'aspect psychologique. Mais si tu parles de football, la saison de l'Olympique de Marseille, alors mis à part ce bon passage après le premier coup de gueule de Zerbi, la défaite à domicile contre Serre, à un moment donné, est-ce que vous avez vu quelque chose, la patte de Zerbi qu'on nous a tellement vendu? Quel est le système de jeu? Quelle est la philosophie de jeu de l'Olympique de Marseille qui vous fait kiffer cette équipe?
Non, c'est compliqué, mais on avait parlé la dernière fois que j'étais venu, on avait parlé du placement de Rabiot aussi, que je trouve trop sur le terrain, parce que, ok, il est pas mauvais à ce poste-là, mais son meilleur poste, c'est quand même plus bas, j'ai l'impression. Et moi, pour rejoindre Garen sur la compo d'équipe, de mettre des joueurs un petit peu plus offensif, il reste 4 matchs. On va arrêter la philosophie de Zerbi, le foot, la possibilité. Au bout d'un moment, il faut forcer son destin. Il reste 4 matchs. On est encore maître, je l'ai dit, 4 victoires. Allez, ou encore 4 victoires, 1 nul. Je pense que tu finis deuxième. Toi, forcer ton destin. Alors, oui, les compos, mais à un moment donné, il va falloir être dans les duels, il va falloir être fort. Il va falloir aller les chercher, ces résultats. Et c'est vrai que quand je vois cette compo-là, je me dis, bon. On sort d'un stage, ils ont dû se parler, mais on retombe dans des compos où on a eu des problèmes sur les dernières semaines.
Exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que le stage, pour rebondir par rapport au stage, si pour moi tu vas à Rome, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans le groupe. Et moi, j'habite à côté de la commanderie. Sincèrement, il n'y a pas des supporters qui les attendent dehors avec des couteaux.
Le paradoxe, il est là, Garen, et toi, tu le sais mieux que nous tous, c'est que toi, tu es vrai supporter de l'OM, et on sent pas que le climat est très, très difficile des supporters envers l'équipe. C'est ça qui est fou.
C'est pour ça qu'on s'est trompé, Garen, quand on parle de pression autour de l'OM, c'est à l'intérieur du club que certains ont voulu fuir.
C'est Janine, la secrétaire, qui balance
ces trucs. Non, c'est des susceptibilités. Il y en a qui parlent trop, il y en a qui observent.
Tout le monde se met dans le dos.
Donc c'est l'intérieur de la commanderie qui était peut-être un peu pourri de l'intérieur selon certains, et on s'est dit allez, ça va, on va s'éloigner. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je suis beaucoup à la commanderie ou autour. C'est un environnement où les cyprès sont bien tranquilles depuis quelques années. Il fait beau.
Ils ont été repoussés.
Il n'y a pas de problème autour de la commanderie. Les supporters qui sont là, c'est des familles, des enfants, des minots qui veulent les autographes. Exactement. Et qui veulent qu'il y ait un petit sourire des joueurs. C'est tout.
C'est quoi l'ambiance qui est prévue ce soir d'ailleurs?
Garen, tu vas au stade?
Là je travaille aujourd'hui, donc
Marseille, il travaille le dimanche, moi c'est rare.
Attends, il passait une annonce.
Il a deux places à donner.
D'ailleurs, j'ai deux places à donner, personne n'est allé apparemment ce soir, donc voilà. Si jamais.
Appelez le 32-100, je vais appeler mon daron.
Et non, moi pour rebondir par rapport à la commanderie, il y a toujours eu du commérage, on est à Marseille, je veux dire, c'est la vie de la commanderie, à un moment donné, tu sais où tu mets les clés, t'es à Marseille. Donc partir à Rome, mais sincèrement, je pense pas que quand ils vont revenir, il y aura des choses qui auront changé. Bon, voilà. Donc moi, je comprends pas trop ce stage. J'espère que ça va porter ses fruits aujourd'hui, parce que sincèrement, si tu gagnes pas aujourd'hui,
Flo,
et que d'ailleurs le Havre est pas Ligue 2. J'ai écouté les auditeurs d'avant. Le Havre, ils sont barragistes.
Oui.
Donc quand tu vas le Havre, tu vas.
Ils sont 4-2 points d'Angers qui reçoit Lille tout à l'heure à partir de 15h sur RMC. Flo, à quelle ambiance tu t'attends ce soir? Est-ce qu'il y aura un gros soutien au coup d'envoi des supporters marseillais derrière l'OM?
Écoute, oui, il y aura en tout cas un guichet fermé. On va être à plus de 66 000 supporters. Donc, je pense une très, très bonne ambiance, comme quasiment tout le temps depuis de longues saisons. Et puis, forcément, après, le terrain qui va décider. Si Marseille a la bonne idée d'emballer la rencontre, d'être un peu plus séduisant dans l'attitude, d'être irréprochable, les supporters seront à fond derrière leur équipe. Parce que, voilà, tout le monde à l'OM et dans les tribunes a envie de vivre la Ligue des Champions aussi. Donc, c'est pas maintenant que va y avoir des sifflets, des broncas, des banderoles. Après, si effectivement le résultat n'est pas au rendez-vous ou certains ne font pas tous les efforts, bon bah les supporters marseillais. J'ai bien aimé ce qu'a dit Garen, ça correspond à un peu ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que les supporters ils demandent à voir, ils sont un peu sceptiques sur ce stage, mais après bon, si ça porte ses fruits, ok, mais il faut que ça porte ses fruits, sinon ce sera un petit peu le fiasco.
Merci Flo, tu veux pas passer une annonce pour les cartes Panini de ton fils? Qu'est-ce qui te manque exactement?
Non, mais c'est pas les cartes Panini, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, c'est les autres là, les adrénalines ou je sais pas quoi.
Ah ouais, d'accord. C'est quoi la spécialité fromagère à Marseille?
Non, mais ce sont des fromages italiens de notre ami Hugo là, qui effectivement okay.
On lui a fait une pub à Hugo.
A des petits stands dans le 12e arrondissement de Marseille, donc okay. on le salue et c'est un bon connaisseur de foot et de ballon.
Il y a la bonne burrata ou pas bien crémeuse?
Ouais, bah sûrement, parce que je te dis beaucoup de fromage italien. Donc voilà. Petite dégustation quand vous venez sur.
Il est fromagé dans le 12e. Ça va,
mais lui il en rajoute.
Il est à Montolivet notamment.
Bah oui, mais attends, je vais dire mon frère.
Ouais, il est à Montolivet notamment.
Très bien.
Le week-end et je crois en milieu de semaine.
Très bien. Merci Garen.
Il a une pub inespérée, le Hugo. C'est extraordinaire.
On se voit la semaine prochaine au Victor Hugo pour boire un kawa.
Ça va, les gars.
C'est quoi le Victor Hugo?
C'est pas
le café où il gagne, il va voir le café.
Non, non, Hugo,
café.
C'est le prénom du fromage. Ah, pardon,
il a rien qu'à
la rotonde.
Pardon, laisse tomber. Bon, merci Garen. Tu reviens quand tu veux sur RMC.
Merci Garen.
Merci à Florent Germain. À ce soir, dans Bartoli Time pour l'avant-match de ce Marseille-Brest qu'on aura à 20h45 sur RMC. Et puis le direct, c'est donc le MotoGP avec toujours cette place d'honneur, mais pas la place de leader du Grand Prix d'Espagne pour Fabio Quartararo, Paul Lafitte, hein.
Oui Benoît, puisque Alex Marquez compte 2 secondes et 6 dixièmes d'avance sur le pilote Yamaha Fabio Quartararo, bien calé en deuxième position, qui a lui 6 dixièmes d'avance sur Pecco Bagnaia. Le deuxième français Zarco est en 11e position et bien plus loin Marc Marquez, mais qui est quand même dans les points, qui est revenu en 14e position et qui est à la recherche évidemment de la 12e position, et en cas de 12e place finale, il serait à égalité au championnat avec son frère Alex Marquez, qui lui est à la recherche de sa première victoire en Grand Prix, lui qui a déjà gagné en sprint, qui est deuxième du classement général et qui est donc peut-être en route pour un premier succès ici sur ces terres en Espagne. Il reste un petit peu moins de 4 tours à couvrir. On rappelle le top 3, Alex Marquez en tête devant Fabio Quartararo, lui aussi à la recherche de son premier podium depuis maintenant 2 saisons, et la 3e position pour l'ancien double champion du monde, l'italien Pecco Bagnaia.
Et j'ai l'impression, Paul, que c'est Carlos Alcaraz qui va agiter le drapeau.
C'est ça, qui était là pour le départ du Grand Prix, lui le quadruple le vainqueur de Grand Chelem, qui sera là pour le drapeau à Damien évidemment, et lui qui sera l'un des grands favoris, on le sait, de Roland Garros, dont il est le tenant du titre. Mais c'est vrai qu'en Espagne, eh bien, c'est une terre de tennis mais également de moto, avec Alex Marquez qui est en tête, donc à moins de 4 tours de l'arrivée.
Carlos Alcaraz blessé actuellement, hein,
tout à fait.
Voilà, malheureusement on ne peut pas le voir sur les cours de tennis. Merci Paul, la suite et la fin de ce Grand Prix dans un instant, et puis on se concentre sur Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques. Est-ce que Pogacar va finir cette saison des classiques en apothéose? On sera avec Christophe Cessieux, Jérôme Pino et Maria Azé qui commande cette course pour RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 15h. Stephen Brunch.
Benoît Boutron, Stephen Brun.
14h40 sur RMC, la fin du Stephen Brunch chaque dimanche avec Arwana Botret, Benoît Boutron. Et on ouvre la page cyclisme.
Oui, avec Liège-Bastogne-Liège qui est en cours. C'est la doyenne des classiques. On suit cette course avec Maria Azé et Jérôme Pino. Où en est-on, Maria?
71 km de l'arrivée, Benoît, et le peloton mené à un rythme d'enfer par les UAE de Tadej Pogacar est en train de fondre sur l'échappée matinale. Plus que 38 secondes de retard pour le peloton sur l'échappée, donc ça devrait très très vite revenir avant la dernière partie de cette course où les favoris vont s'expliquer. Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, on devrait avoir la première explication au niveau de la côte de la Redoute à 34 km de l'arrivée, avant la mythique côte de la Roche-au-Foncon à 13 km de l'arrivée. Voilà, ça nous promet une après-midi riche en suspense et riche en duel avec nos deux champions du moment.
Le patron est entré dans ce studio, Christophe Cessieux. Salut chef.
Patron.
Bonjour.
Patron.
Salut Christophe.
Salut les
gars. En forme?
Ouais, super.
Bon, un scénario à suspense sur cette doyenne des classiques, la 111e édition, ce duel très attendu entre Pogacar et Evenepoel. 2 victoires chacun, d'ailleurs, ils ont gagné les 4 dernières éditions tous les deux. On rappelle que la saison des classiques est exceptionnelle pour Pogacar. 6 podiums en 6 courses, il a remporté l'Estrade Bianche, le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne. Il vise un 9e monument en carrière. Il rejoindrait Fausto Coppi, Sean Kelly et Constante Giardango.
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 T'as bien bossé là.
Ouais,
on n'est pas sur la connaissance
vacances perso là.
Celui-là, celui-là, faut le connaître.
On n'est pas sur un freestyle de Skyrock. Le seul photocopie que tu connais, c'est pour sortir des documents.
Très bonne vanne. Est-ce qu'il va finir cette saison des classiques en apothéose? On va prendre votre avis, puis dans un instant, on accueillera également Vincent et Kevin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christophe? Est-ce que c'est pour Poggi cet après-midi?
Bon, écoute, s'il est sur le même état de forme que mercredi dernier dans la Flèche Wallonne, je vois pas qui pourrait le battre. Il a qu'un seul véritable adversaire dans cette course, c'est évidemment Remco Evenepoel. Les deux hommes en sont à 2 victoires chacun. Maintenant, on arrive quand même tout au bout de cette saison des classiques et on peut pas dire qu'il soit épargné.
On l'a vu fatigué au cœur de lui quand même. Hein.
Ouais, j'aimerais bien être fatigué comme lui.
Il avait le visage marqué, après il était.
T'as vu ce qui tombait, il faisait un froid de canard, il tombait des cordes. Et il a déboîté tout le monde là où la pente était la plus rude. Je pense qu'il peut encore faire réaliser une victoire aujourd'hui. Et ce qui serait énorme, c'est le triptyque belge. Je crois que ça n'a jamais été réalisé dans l'histoire, c'est-à-dire victoire dans le Tour des Flandres, dans la Flèche Wallonne et dans Liège-Bastogne-Liège.
Merckx n'a jamais fait.
Je ne crois pas que Merckx l'ait fait. Je crois que Merckx a fait Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait eu la Flèche Wallonne au milieu.
Ah, c'est moyen, Merckx, finalement.
Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour Poggi aujourd'hui?
Ouais, c'est une course qui est taillée pour lui et je pense qu'il va mettre un point d'honneur à finir cette série de classiques en vainqueur et en assommant encore plus un peu de sa supériorité. On a vu Remco Evenepoel quand même un peu limité lors de la Flèche Wallonne. On a certainement vu l'une des meilleures prestas de Poggi sur cette course-là, notamment dans la montée de Huy. Aujourd'hui, la Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment la course qui lui va le mieux. C'est très usant, c'est presque une étape de moyenne montagne.
4000 mètres de dénivelé quand même aujourd'hui.
Tout à fait. Ouais, là on est dans la haute levée, on va basculer, on va monter la côte des Rosiers qui dure 5 km, puis la côte de la Redoute où il pourra exploiter 100% ses capacités d'explosivité. Donc, il est le très très grand favori maintenant. On l'a vu, il a déjà été mis en difficulté dans les classiques. Il est sur la dernière de sa série puisqu'après il coupera et on attaquera les courses par étapes. Donc le grand favori, c'est lui. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On peut aussi, une surprise. Si la victoire d'un Remco Evenepoel ou d'un Skelmose serait encore une surprise, mais il n'est pas impossible qu'il soit un peu accroché parce que Remco a fait forte impression. Skelmose, j'espère qu'il est remis de sa chute à la Flèche Wallonne. Et puis on espérera avec nos Français, mais c'est clair que si Poggi est à 100% et comme le disait son manager et Mauro Gianetti mercredi soir après l'arrivée de la Flèche, il a encore beaucoup d'énergie. Bon, y a peu de chances qu'on puisse le battre aujourd'hui. Hein.
Ça te fascine, Stéphane?
Non, en fait,
réaliste Pogacar.
Oui, c'est fascinant. Maintenant, je me demande, à un moment donné, je me pose la question, est-ce que ce mec peut un jour connaître la fatigue, en fait? Est-ce qu'il va avoir sur le départ, parce qu'à force d'enchaîner, est-ce qu'un coup de moins bien peut lui arriver? Est-ce qu'un coup de, il sent pas ses jambes, ou alors ses jambes sont moins fortes qu'à l'accoutumée, et que ça profite à Remco Evenepoel? Ce qu'il réalise là sur
Ça lui est arrivé quand même dans le Tour de France d'avoir des journées sans, quand même, mais sur un enchaînement.
Oui, sur un enchaînement d'étapes. De trois semaines. Maintenant, déjà, j'ai envie de voir ce duel jusqu'au bout parce que je crois qu'il me semble qu'ils se sont souvent évités. Des mecs étaient absents aux obsèques. 2023, ils étaient ensemble. Il y a la chute de Pogacar où il abandonne parce qu'il se fracture le poignet. Déjà, j'ai envie que cette course aille au bout avec les deux. Parce que qu'est-ce qu'on attend? On attend Evenepoel, Pogacar au bout. Alors, pour une arrivée au sprint, je sais pas, mais on a envie de les voir au moins se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas, et ça je le demande à Jérôme ou Christophe, est-ce que Evenepoel est pas sur une courbe un peu plus ascendante et que Pogacar arrive un peu sur la fin? Il est pas sur la jante, mais Evenepoel c'est un peu, il est revenu, il était convalescent. Est-ce qu'il est pas sur un pic de forme qui monte et Pogacar est un peu sur un pic descendant?
Jérôme et Christophe, gardez votre réponse. On va juste aller sur le circuit d'Espagne de MotoGP parce que c'est terminé, mais on a un beau podium pour Fabio Quartararo, Paul Lafitte. Hein.
Ouais, Benoît, Fabio Quartararo qui avait claqué la pole position, la 17e de sa carrière et qui termine 2e de ce Grand Prix, remporté par Alex Marquez qui glane lui à 29 ans sa première victoire en catégorie reine et qui va passer en tête du classement général du championnat du monde puisque son frère Marc Marquez, qui avait déjà gagné 4 courses depuis le début de la saison, a chuté. Il termine finalement 12e. Marc Marquez, il sauve les meubles, mais c'est vrai qu'on retiendrait évidemment ce nouveau podium, le 32e de sa carrière pour Fabio Quartararo qui se relance donc au guidon de sa Yamaha avec la 11e position finale également pour Johan Zarco. C'était un beau dimanche pour les Français, donc on retiendra la victoire d'Alex Marquez et le premier podium depuis maintenant 2 saisons pour Fabio Quartararo, puis la 3e position pour Pecco Bagnaia. le coéquipier de Marc Marquez.
Merci Paul, bon après-midi à toi. La deuxième place de Fabio Quartararo au Grand Prix d'Espagne. Jérôme, est-ce que la fraîcheur de Remco, ça peut être un argument justement dans ce final?
Bah, il y a une semaine, on s'est dit oui, puisque, rappelle-toi, une semaine, l'Amstel Gold Race et Remco a su mettre au diapason Pogacar qui s'était un peu emballé. Alors on s'est dit, bah voilà, il est en train de fatiguer, il est peut-être un peu moins bien, il paye son Paris-Roubaix, il paye son Tour des Flandres. Puis au final, mercredi, il a inversé, remis l'église au milieu du village. Donc et c'est sûr qu'il faut de la fraîcheur. Et en plus, ces deux-là, et là après je laisserai Christophe nous en dire un peu plus, mais ces deux-là, de toute façon, ils savent se préparer, quoi. Et quand ils sont à l'entraînement comme en course, ils donnent tout à 100%. La jauge, elle est vide quand ça s'arrête. Donc, il peut y avoir une défaillance ou un petit coup de moins bien sur le final qui fasse basculer la course chez l'un ou chez l'autre. Mais c'est sûr que quelques courses en moins pour Evenepoel, c'est peut-être un avantage, même si, ben, on parle d'un phénomène et d'un génie qui s'appelle Tadej Pogacar. Donc,
je connais mon Cessieux, vraiment... il est résigné, là.
Non, parce qu'il y a quand même Christophe. On a du beau spectacle depuis le début.
Ah, mais on se régale. Mais ce qui est fou, c'est qu'il tord ses concurrents les uns après les autres. De temps en temps, il perd. Mais il a eu la période Van der Poel, maintenant il a la période Evenepoel. Et au mois de juillet, ça va être Vingegaard qui va
gagner. Ce feuilleton, c'est pour ça que le cyclisme actuellement a le vent en poupe. C'est parce que Pogacar est l'acteur principal d'un feuilleton qui dure 6 mois. Acteur permanent. Et il y a des second rôles, entre guillemets, qui viennent comme ça, qui se relaient. C'est à mon tour d'essayer de le faire tomber.
Du coup, on a envie de le voir gagner tout le temps, ou il y en a qu'on envie de le voir perdre. Ça, comme certains ont envie de le voir perdre. Et le fait qu'il ait perdu, tu vois, dans Paris-Roubaix, dans l'Amstel, ça donne un peu de grain à moudre, et dans Milan-San Remo, et ça montre qu'il n'est pas imbattable. Mais à la différence, quand il gagne, quand il perd, je veux dire, tout le monde trouve ça presque normal, mais en revanche, il gagne cette semaine la Flèche Wallonne, et là, tout le monde, enfin, certains observateurs, disent oh là là, scandale, le mec a gagné, c'est un extraterrestre, c'est un mutant, il est sur un vélo. Un moteur, alors que quand il perd, on trouve ça presque normal.
Okay. Et tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Avec un vélo et un moteur, c'est quand même honteux.
Ah là, oui, c'est un scandale. Même moi, je le bats avec le vélo.
Tiens, donne la parole à ceux qui nous écoutent et qui veulent participer au 32-16. Kevin et Vincent, on va vous accueillir tous les deux en même temps. Salut à vous deux.
Salut les garçons. Salut.
Bonjour à tous.
Ça va?
Bonjour à tous.
On vous accueille parce que vous n'avez pas le même avis. Toi, Kevin, tu penses que Pogacar peut trébucher cet après-midi alors?
Ouais, moi je pense que Stephen t'a posé la bonne question sur le croisement des courbes, en fait, des courbes de forme. Dans la logique physiologique, Pogacar doit forcément être un petit peu, même si c'est un phénomène, forcément, sur une pente descendante. Là où Remco, lui, clairement, c'est le premier gros objectif de sa saison. Et suite à son accident, il a tout calé par rapport à Liège-Bastogne-Liège, qui est son un de ses premiers gros objectifs. Et moi, je l'ai trouvé très très fort, Remco, en fait, sur l'Amstel. Quand il revient sur Pogacar, on retrouve le Remco.
Ouais, qui mais un peu moins bien sur la flèche quand même, Kevin. Ouais, hein. Il a bien coincé dans le mur de huit. Hein.
Moi, j'ai une explication sur la flèche. Il y a eu quand même des conditions météorologiques compliquées. On sait que c'est pas le plus adroit sur le vélo parce qu'il a un passé de footballeur avant. Il est arrivé sur le tard sur le cyclisme. Ouais. Donc sur l'adresse sur le vélo, c'est pas le plus à l'aise. Donc on peut imaginer qu'il a laissé plus de jus en fait pour se placer et pour rester sur sa selle et pas tomber, parce qu'on sait qu'il est un peu traumatisé quand même et que c'est ce jus là qui lui a manqué. Et puis bon, le mur de huit, c'est quand même un effort très très spécifique. Là, on va avoir quand même l'enchaînement de différentes côtes. Et pour moi, voilà, pour moi, Remco est favori aujourd'hui. Vraiment, je l'ai trouvé hyper impressionnant sur l'Amstel. Il a une position sur le vélo qui est unique, et un dégagement de puissance et de vélocité qui fait pour moi de Remco un phénomène au même titre que Pogacar, avec la limite en moins de l'adresse sur le vélo.
Kevin, donne la parole à Vincent. Vincent, toi, tu penses que c'est pour Pogacar cet après-midi?
Oui, c'est Pogacar. Il a le collectif surtout. Evenepoel, il va être isolé dans une équipe un peu plus faible, alors qu'on voit l'UAE qui roule. Et la succession de boss, ils vont monter un train très fou pour le mettre comme un feu d'artifice. Et je pense que dans les dernières côtes, il partira tout seul. Faut juste qu'il fasse attention à ne pas vouloir trop en serrer sur le spectacle. C'est ce qui, des fois, peut le punir, mais je pense que la saison, c'est une apothéose. C'est une apothéose aujourd'hui. Parce que s'il gagne pas le Tour de France, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le remettra en question. C'est ça qui est grave un peu dans notre sport. Mais aujourd'hui, avec le collectif qu'il a, il va user tous les autres. Parce que le collectif va le lancer très fort.
Tu sais quoi, Vincent, tu viens de faire une transition parfaite parce que c'est la déclafort de Jérôme Pinault ce matin dans les grandes gueules du sport. Jérôme, tu nous as dit qu'à 100%, Vingegaard peut vraiment le contrarier sur le Tour de France.
Oh bah oui, sur la préparation, Vingegaard qu'il est en train de faire et qui me gêne beaucoup, moi. Hein. J'aime pas trop ne pas voir les acteurs et les voir.
T'aimes pas les mecs qui se cachent, toi?
Ben, pas trop, non. Pas trop. Par le passé, j'ai eu parfois, souvent, trop souvent raison de savoir comment on se préparait pour le tour sans courir. Donc ça m'ennuie. Et en plus, on est là, il y a des belles courses au PAO sur le calendrier et on s'aperçoit jour après jour que, et année après année, qu'on, avec Pogacar, qu'on peut faire ces courses-là, récupérer, être en forme pour le Tour de France. Donc ça, c'est pas un souci. Moi, ce que j'ai dit ce matin, c'est que à forme, à 100%, et avec cette préparation, si les deux se présentent au départ avec le même état de forme, c'est-à-dire en étant au pic de leur forme, la fraîcheur de Vingegaard et ça, quelque part, son côté défensif de Vingegaard, il laissera faire le Pogacar. Et pour moi, il est plus fort sur les trois semaines du Tour. L'an dernier, on l'a vu, on a cru, et Chris, tu pourras, j'ai suivi les commentaires, donc tu pourras confirmer qu'au Lioran, on a tous cru à la bascule du Tour. On a cru que, au bout de 10 jours, ça y est, Vingegaard avait fait basculer le Tour de France. Et cette année, avec le temps pris, la seule interrogation qu'on peut avoir, et là je suis passe dé à Chris, c'est est-ce que Vingegaard sera à l'aise sur son vélo? Et ouais, c'est ça. Juste ça.
Et ça, le problème, c'est qu'il ne roule pas en peloton. À l'entraînement, tu ne frottes pas. Et le Tour de France, le début du Tour, on sait, c'est tout le temps très nerveux. Tout le monde veut se placer à l'avant. Vingegaard sera protégé par ses équipiers. Mais quand t'as pas l'habitude de frotter, d'éviter les mecs et tout, tu peux vite te retrouver à terre.
Mais c'est toujours la problématique des mecs qui s'entraînent. On est bon à l'entraînement. Je fais des bons chronos. Mais c'est pas pareil.
C'est le débat perpétuel. De est-ce qu'il faut limiter les braquets, est-ce qu'il faut limiter les aéros, et pourquoi il faudrait pas obliger un certain nombre de courses avant de participer à une course.
Voilà, en tennis,
c'est un minimum de basket à faire. Bravo, Jérôme.
Oui, parce qu'en fait, et puis on paye pour ça, quoi. Exactement. C'est-à-dire que les partenaires, alors ils veulent gagner des grandes courses, mais la sécurité en peloton, moi le petit qui veut se qualifier pour le tour, mais les gars, ils courent, quoi. Et là, le mec, il t'explique qu'en étant en stage en Sierra Nevada ou je ne sais où planqué, il suffit de faire deux courses et de revenir et pour être le meilleur. Ça gâche un peu le spectacle et en plus, ça rend ces courses très difficiles et très dangereuses. Pourquoi ? Parce que la seule solution pour protéger un mec qui ne sait pas rouler en peloton, c'est de mettre quatre bourrins devant dans chaque étape, quel que soit le parcours, pour essayer de le mettre le plus tôt possible. Et donc, dans les étapes de sprint, ils se retrouvent, ces équipes-là, à l'avant, à frotter avec les sprinteurs. Et là, ils font pas le poids. Et donc, ils paniquent et ils font tomber tout le monde. Donc,
grand merci.
Voir Vingegaard sur les courses.
Tu continues à commenter ce Liège-Bastogne-Liège avec Maria Azé qui est sur place, avec Christophe Cessieux qui va prendre le relais. On remercie Vincent et Kevin qui sont venus au 32-16.
Merci les garçons.
Magnifique Intégral Sport, hein, parce qu'il y a Liège-Bastogne-Liège et il y a un match crucial dans la course à l'Europe entre Angers et Lille. Ça va être passionnant. Ouais. Restez bien là.
Restez bien sur RMC. C'est Christophe Cessieux qui prend la suite, qui passe l'après-midi avec vous. Christophe. Bien sûr. Restez bien sur RMC.
Vous allez faire un petit barbecue maintenant, vous les gars. Là, c'est l'heure.
On va écouter RMC dans le canapé. En pyjama. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Arwan, merci Benoît. Steph, merci. Restez bien sur RMC pour vivre l'intégralité du sport en direct. Ciao, ciao.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.